السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا في cette soirée du samedi 18 جمادة الأولى 1434 de l'Hégire, correspondant 30 mars 2013, بإذن الله تعالى. Donc aujourd'hui inshallah ta'ala avec le hadith numéro 63 et 64. Inch'Allah ta'ala, deux hadiths, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si le temps nous suffit, inch'Allah ta'ala. Donc le hadith d'aujourd'hui, numéro 63. An Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qala, innakum la ta'amalouna a'malan, hiya adakku fi a'yunikum min ash-shar. Kunna na'ud ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, min al-mubiqat. Tayyib. D'abord, n'oubliez pas que nous sommes, inshallah ta'ala, dans le chapitre la surveillance. Nous sommes toujours avec le chapitre la surveillance. Le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith de Anas, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, « Innakum la ta'amalouna a'malan, hiya adakku fi a'yunikum sha'ar, in kunna la na'udduha ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-mubiqat. » Min al-mubiqat. Al-Bukhari, 6000. 492. Donc d'après un saladiyallahu ta'ala anhu, vous accomplissez des actes qui n'ont pas d'importance à vos yeux, mais que nous considérions du temps du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés mortels. D'après Anas, le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, vous accomplissez des actes qui n'ont pas d'importance à vos yeux, mais que nous considérions du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés mortels. Hadith se trouve dans le Bukhari 6492. Vous remarquez aujourd'hui que le hadith c'est des paroles du sahabi Anas radiyallahu ta'ala anhu. Quand c'est un sahabi qui parle, on dit c'est un hadith mawquf. Comme ça on dit. On dit c'est un hadith mawquf. Quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, on dit c'est un hadith marfou'. Et quand c'est un sahabi qui parle, on dit c'est un hadith mawquf. Et quand c'est ceux qui viennent après les sahaba, par exemple les enfants du sahaba, tabi'in, on dit c'est un hadith maqtou'. On dit c'est un hadith maqtou'. Et certains disent ça s'applique à tous ceux qui viennent après les sahaba. Donc si c'est le prophète Hassan qui parle, on dit hadith marfou'a. Et si c'est les sahaba, on dit hadith mawquf. Et si tabi'in, on dit maqtou'a. Et des fois, même après les tabi'in. Anas radiyallahu ta'ala anhu, le sheikh rahimahullah ibn Uthaymin dit, Anas ibn Malik min al-mu'ammarin. C'est-à-dire, Anas, Allah ta'ala lui a donné cette faveur qu'il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. C'est pour cela que c'est bien quand on fait des doigts à quelqu'un, on dit Allahumma atil umurahu, ya Allah, allonger ou bien rallonger son terme, sa vie, mais à condition qu'on dise dans l'obéissance d'Allah. Car Allah Ta'ala peut rallonger la vie à quelqu'un, mais il va vivre dans la désobéissance et se remplir de péchés. Donc c'est pas bien pour lui. C'est pour cela que si on demande à Allah Ta'ala d'allonger dans la vie de quelqu'un, on dit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit que Anas radiyallahu ta'ala anhu a vécu longtemps, a vécu longtemps. Allah Ta'ala lui a donné cette faveur. فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 90 سنة. Il est resté, après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, encore 90 années à peu près. Allahu Akbar. Donc le prophète, عليه السلام, quand il est mort, Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, a vécu après lui combien? À peu près 90 ans. C'est pour ça que les historiens, lorsqu'ils lui ont compté combien qu'il avait d'enfants et de petits-fils, ils ont trouvé qu'il en avait à peu près 120. Il a eu à peu près 120, yani entre ses propres enfants et ses petits-enfants. Il a dit, فَتَغَيَّرَتِ الْأُمُورُ فِي عَهْدِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Il a dit, pendant la période de Anas, radiallahu ta'ala anhu, les temps ont beaucoup changé. Et les choses ont beaucoup changé. وَاخْتَلَفَتْ إِحْوَالِ النَّاسِ. Et les gens aussi ont beaucoup changé. وَصَارُوا يَتَهَوَنُونَ فِي بَعْدِ الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ ta'ala anhu. Et les gens ont changé. En son époque, il a dit, au point où, ils ont commencé à quoi? À yani, ne pas donner d'importance et à ne pas donner la vraie valeur à certaines choses très importantes, il a dit. À certaines choses très importantes. Mitlu salat il jama'a. Il a dit, comme salat il jama'a, comme la prière en groupe. La prière en groupe, c'est-à-dire le fait d'aller, pour les hommes, d'aller prier à la mosquée. Faqad kana as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun aw maridun ma'ad. Il a dit, autant des sahaba, autant des compagnons, personne des hommes, personne des compagnons ne, yani ne loupait la salat en groupe à la mosquée. Il a dit, ce qu'il a loupé était ou bien un hypocrite, ou bien quelqu'un de malade qui a des excuses valables. ولكن الناس تهاونوا بها ولم يكونوا على ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit, mais autant de ce sahabi رضي الله تعالى عنهم, les gens ont commencé à quoi? À beaucoup salat. Ont commencé à rater beaucoup cette salat et ne pas lui donner l'importance qu'on lui donnait au temps du prophète صلى الله عليه وسلم. Je veux dire ici par rater, je veux dire que yani, il n'y allait pas yani, faire la salat en groupe, bien sûr, pas tout le monde, mais yani, certains gens ont commencé à faire ainsi. بل إن الناس في عهدنا صاروا يتهاونون بالصلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط. Tautim رحمه الله dit, pire, il a dit pire, car de nos jours, les gens, non seulement ils ratent la salat en groupe, il délaisse, certains d'entre eux délaissent même la salat elle-même. Allah l'adim, ne faut plus la prière. A'oudou billah. Fala yusallun. Ou yusallun wa yatroukun. Ou bien tu trouves certains, il a dit, qui font la salat de temps en temps et la délaissent de temps en temps. Ou yu'akhirun salat an waqtiha. Ou il laisse la salat, yani sortir de son heure pour la faire après que son moment soit terminé. كل هذه أعمال يسيرة عند بعض الناس لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كانت تعد من مب. Il a dit toutes ces choses qu'on vient de citer maintenant, le fait de rater la salat, de la sortir de son heure, ou bien, il a dit, ce sont des choses qui paraissent que ce ne sont pas des choses graves chez beaucoup de gens. Tant il a dit, autant du prophète et ses compagnons, c'était pour eux, ils ressentaient ça moubiqat et moubiqat, comme des péchés mortels, comme de grands péchés, des péchés qui mènent vers la perdition yani, de la personne. وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْغِشُّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. Il a dit, il en est de même pour la tricherie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من غشا فليس منا. Rawa Muslim, تحت حسن 147. Le prophète a dit, quiconque triche ne fait pas partie de moi, ne fait pas partie de moi, ne peut pas s'affilier à moi. Je ne suis pas de ceux qui trichent. Et remarquez ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, men recha, quiconque triche. Car il y a un autre hadith qui dit, men rechena, quiconque nous triche, ou bien nous dupe, ou bien nous ruse. Nous, ça veut dire les musulmans. C'est pour cela que certains disent, Alhamdoulilah, moi j'ai triché avec un kafir. J'ai pas triché avec un musulman. Donc le mécréant, je peux tricher avec lui. Hop, on lui cite ce hadith. Donc dit, men recha, quiconque triche, il n'a pas spécifié que tu triches avec un musulman ou un kafir. Donc, dire que tricher avec un kafir, c'est aussi haram. Tricher avec un kafir, c'est aussi haram à cause de l'itlaq ici. Men recha, il a dit, quiconque a triché, pas dit avec nous. Donc, si quelqu'un va dire, donc, la deuxième version avec nous, on va dire, avec nous, ça veut dire c'est plus grave encore. Si tu triches avec le musulman, c'est plus grave encore. Mais tricher avec le kafir, c'est aussi haram. Il a dit donc, lakin, il a dit, lakin, undur ilan nas al-yom. Regarde, il a dit, dans le comportement des gens au jour. Tajidu anna al-ghasha indahum ahwan min kathir min ashiya. Tu vas trouver que le fait de tricher chez eux, ça n'a plus d'importance. Bel inna ba'dahum al-iyadu billah, au point où certains d'entre eux, al-iyadu billah, ya'uddu al-ghisha min shatarati fil bay'i wa shira' wa al-'uqud. Il a dit, ou de nos jours, considère le fait de tricher comme vraiment un signe de quoi? De, disons, d'intelligence, et ça prouve que quelqu'un est vraiment débrouillard. C'est-à-dire que c'est devenu quoi? Le fait de tricher, c'est devenu une éloge. Ce n'est plus un défaut, c'est une qualité. Ce n'est pas une critique. En parlant des gens, on dit, Masha'Allah, celui-là, comme il est débrouillard, c'est vraiment une bonne qualité. Pourquoi? Il sait tricher. L'autre miskin, c'est Yani, miskin, c'est un miskin, il ne sait même pas tricher, il se débrouille pas. Naam, ni sa journée. Mais l'autre, Masha'Allah, Yani, il triche, Masha'Allah, il se débrouille, Masha'Allah. Il a dit, comme ça, Oudoubillah. Il a dit, certains de nos jours, Oudoubillah, pour eux, c'est vraiment un signe d'intelligence, de débrouillardise, il a dit, Masha'Allah, il a dit, Allah al-Afiyah. Il a dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ma'anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tabarra'a min insan alladhi yaghishu an-nas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il s'est désavoué de la personne qui triche avec les gens. Wa min dhalika al-kadhib. Naam. Et ce hadith, quiconque triche ne fait pas partie de moi. En quelle circonstance l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a une circonstance où il était une fois, comme ça, dans le souk, dans le marché. Et il a vu quelqu'un, naam, qui vendait, disons, du blé, naam, dans un grand sac. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dans le blé, dans le sac, et a enfoui un peu sa main qui est descendue, comme ça, disons, jusqu'à la moitié de son bras, naam, et il a trouvé quoi? Il a trouvé que le blé qui était enfoui en bas, naam, était quoi? Était un peu mouillé. Il a dit à ce vendeur, il lui a dit, c'est quoi ça? Pourquoi c'est mouillé? Il lui a dit, à Rasoulallah, yani, il a plu. Il lui a dit, pourquoi? Naam, ce blé qui a été touché par la pluie, pourquoi tu l'as pas mis, naam, comme ça, en dessous, ou là au-dessus, pour qu'il soit visible, pour que les gens, quand ils voient que c'est mouillé. C'est ici qu'il a dit, sallam, il a dit, quiconque triche ne fait pas partie de moi. Quiconque triche, naam, ne fait pas partie de moi. Quand tu vends quelque chose, il faut pas mettre la chose, et masha'Allah, tu la mets comme ça du côté où tout le monde la voit, et la chose qui est gâchée ou bien gâtée, naam, ou bien yani, qui a un défaut, tu la caches. Tu la caches soit derrière ou en dessous. Il a dit tout ça rentre dans la tricherie. Ensuite, le cheikh dit, Allah, et il rentre dans cela aussi, le mensonge. Le mensonge. وَالْكَذِبُ مِنْ الْأَشْيَا الْعَظِيمَةِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم. Le mensonge, il a dit, chez les sahaba, رضي الله عنهم, les compagnons, c'était vraiment quelque chose, نعم, de répugnant. C'était quelque chose que vraiment, يعني, ils ne faisaient pas. Quelque chose dont ils mettaient en garde. Quelque chose dont ils s'éloignaient, il a dit. فَيَرَوْنَهُ مِنْ مُبِقَتْ. Parce que, à leurs yeux, c'est un péché mortel. لَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Mais malheureusement, beaucoup de gens, يَعُدُّهُ أَمْرًا هَيِّنًا. Beaucoup de gens de nos jours, يعني, ils pensent, ou la, pour eux, le mensonge, c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur. C'est-à-dire que, pour eux, c'est pas grave de mentir, c'est pas grave. فَتَجِدُهُ يَكْذِبُ وَلَا يُبَالِي بِالْكَذِبِ. C'est pour ça qu'il a dit, tu trouves la personne. Elle ment, et, يعني, elle s'en fout du fait de mentir. Pour elle, c'est pas grave. Ma'ami, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la yazalu rajulu yakdibu wa yataharra al-kadib hatta yukta al-kadaba. Naam, salam alaykoum, est-ce que vous m'entendez? Taïb, je ne savais pas. Je savais pas que j'avais perdu le micro. Est-ce qu'il y a des coupures ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des coupures ou il n'y en a pas? Ça s'est arrêté juste après l'aya. Quelle aya? Jazairi, quelle aya? J'ai pas compris quelle aya. Je me souviens pas de quel verset tu parles. Hadith, hadith. Hadith, voilà. Tayyib. Tayyib. Donc, j'avais ensuite cité le hadith en français. Le hadith en français. Et prenez garde au mensonge. Car le mensonge guide à la perversité. Et la perversité mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de pratiquer le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Naam. A'oudou billah, la personne commence à mentir, ensuite commence à mentir. Allah Ta'ala ne l'a pas encore inscrite chez lui comme menteur, la personne. Ensuite, elle pratique le mensonge, ça devient chez elle courant. Alors Allah Ta'ala inscrit la personne chez elle. Cette personne est une menteuse. Quand il l'a inscrit, c'est difficile maintenant pour la personne. Car elle est devenue perverse. Elle est devenue perverse. Et la perversité mène vers quoi? Mène vers l'enfer. Mène vers l'enfer. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah a dit وَرُبَّمَا يَكْذِبُ فِي أُمُورٍ أَخْطَرٍ فَيَجْحَدُ مَا يَجِبُ عَنْ النَّاسِ. Et la personne qui commence à mentir jusqu'à ce que ça devienne chez elle courant, chose courante, nam, ensuite elle va mentir même dans des choses dangereuses, comme dans le fait de nier les droits des gens sur nous, les droits des gens sur nous. Ou yedda'i ma laysa lahu. Ou bien il va quoi? Il va prétendre, naam, que lui yani a des droits sur les gens. Il va prétendre le contraire, que Y me doivent de l'argent, me doivent des choses. Il a dit wa yuhakimuhum 'ind al-qadi wa yahlifu 'ala dhalik. Et il peut même les ester en justice. Il va ester les gens en justice. Il peut même chez le juge, devant le juge, jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, que telle et telle personne lui doit de l'argent ou lui doit des choses. Il a dit ul'iyadu billah mimman yalqa Allah wa huwa 'alayhi ghadban. Et ce sont des gens qui, s'ils font comme ça, ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, et yani, ils vont rencontrer Allah en colère contre eux. إلى غير ذلك من مسائل الكثيرة التي يعدها الصحابة المهلكات ولكن الناس اختلفوا فصارت في عيونهم أدق من الشعر. Il a dit, on a donné des exemples de choses qui, chez les Sahaba, paraissaient des péchés mortels. Et malheureusement, chez les gens de nos jours, paraissent comme tout juste des petits péchés. Tout juste de petits péchés. وذلك, et pourquoi cela? Pourquoi cela? وذلك لأنه كلما قوي الإيمان عظمت المعصية عند الإنسان وكلما ضعف الإيمان خفت المعصية في قلب الإنسان. Il a dit, pourquoi tout cela? Il a dit, tout simplement parce que à chaque fois que la foi grandit et s'ancre dans le cœur, alors le péché paraît pour la personne, même le petit péché, il paraît vraiment énorme. Et à chaque fois que la foi diminue et régresse, non, mais diminue et devient fine, fine dans le cœur de la personne, alors à chaque fois qu'elle devient fine et petite, alors le péché va devenir quoi? Va devenir comme quelque chose de très petit qui n'a pas d'importance. Non. Pourquoi l'iman? Car la perte, sa foi est faible. Donc c'est ça, inshallah ta'ala, mizan, comme on dit, la balance. Non. À chaque fois que ta foi est grande, car la foi, vous savez, elle grandit et elle diminue. Vous savez, c'est comme le thermomètre. Elle grandit avec quoi? Avec les actes d'obéissance. Et diminue avec quoi? Avec les actes de désobéissance et les péchés. Il a dit, plus ta foi est grande, plus un petit péché va te paraître un grand péché. Et tu vas pas dormir 2, 3, 4 jours à cause des péchés. Pourquoi? Car ta foi est grande. Et dès que la foi faiblit et devient fine, tu peux faire tous les péchés du monde et ne rien ressentir. Et quand on te fait la remarque, tu dis, off, qui ne fait pas les péchés? Off, l'essentiel, je prie. Oh, l'essentiel, je dis, la ilaha illallah. Oh, Allah Ta'ala, c'est tout miséricordieux. Allah Ta'ala, Ghafur Rahim. Et comme ça, pourquoi? Car ta foi, si jamais ta foi grandit, tu vas voir que un petit péché, tu vas rester 2 ou 3 jours sans dormir la nuit. Subhanallah al-Azim. C'est ça donc, il y a une misère, la balance. Naam. Hadith numéro 64. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة d'après أبي هريرة رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الله يا غار. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الله يا غار وغيرة الله أن يأتي المؤمن محرم الله. البخاري 4882. D'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah éprouve de la jalousie. Allah ta'ala est jaloux. Et la jalousie d'Allah consiste en ce que le croyant commette un acte qu'Allah ta'ala a interdit. Donc Allah ta'ala est jaloux. Sa jalousie c'est quoi? C'est lorsque le croyant commet un acte qu'Allah ta'ala le lui a interdit. Le cheikh dit rahimahullah, والغيرته حقيقية لله عز وجل. الغيرة, il a dit la jalousie, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ثابتة لله. نعم. يعني il y a des dalil clair et sahih que Allah subhanahu wa ta'ala éprouve la jalousie. وَلَكِنْهَا لَيْسَتْ كَغَيْرَتِنَا. Mais la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme notre jalousie. بَلْ هِيَا أَعْظَمُ أَجْلْ. Mais elle est, يعني, sublime. C'est une jalousie qui lui sied et lui convient. عَزَّ وَجَلْ. بِحِكْمَتِهِ أَوْجَبَ عَلَى عِبَادِهِ أَشْيَاء وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَشْيَاء وَحَلَّلَهُمْ أَشْيَاء. Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse, il a ordonné à ses serviteurs des choses et leur a interdit des choses et leur a permis des choses. فَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَهُمْ. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné des choses, a interdit des choses et a permis des choses. Les choses qu'il a ordonnées, qu'il nous a ordonné de faire, naam, c'est un grand bien pour nous dans notre vie et dans l'au-delà. Subhanallah. Toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, c'est toi qui va, yani, qui va en profiter. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand bien pour qui? Pour Allah? Non. C'est un grand bien pour toi. S'il t'a ordonné d'une chose, même si toi tu ne comprends pas la sagesse, mais c'est un grand bien pour toi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de la faire. Et c'est un grand bien dans cette vie et dans l'au-delà. Naam. وَفِي حَاضِرِهِمْ وفي مستقبلهم. C'est un grand bien, dans le présent et dans le futur aussi. Tandis que ma harram Allah alayhim, tandis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, فَإِنَّهُ شَرٌ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ, c'est un grand mal pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà. نعم. وَحَاضِنِهِمْ وَمُسْتَقْبِلِهِمْ, présent et dans leur futur, c'est aussi un mal. فَإِذَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ أَشْيَا, et avant cela je voudrais dire, نعم, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, il faudrait que tu aies la conviction, la grande conviction, la certitude inébranlable que quoi? Que c'est un mal. Même s'il contient quoi? Apparemment un bien. C'est un peu comme l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool. Il a dit fihi manafi'a linnas, il a dit il contient des biens. Mais son mal, ou alors les mots qu'il contient, sont beaucoup plus grands que le bien qu'il contient. L'alcool, quel bien il contient? Par exemple, il contient le bien que pendant le moment où tu as bu, il te fait oublier les soucis. Et tu te lèves, tu commences à chanter, à rire, à danser, tu as oublié les soucis. Mais le mal qu'il contient, le mal d'abord pour religion, celui qui boit de l'alcool dans cette vie, comme a dit le prophète alayhi sallam, sans avoir fait la tauba, le repentir, il n'en boira pas dans le paradis, même s'il y rentre. Rapporté par Cheikh Al-Albani a dit sahih. Celui qui boit de l'alcool dans cette vie, il n'a pas fait la tauba. Quand il meurt, même si Allah Ta'ala va le faire rentrer au paradis parce qu'il mérite paradis, c'est un mu'min, il ne boira pas de l'alcool du paradis, le vin du paradis. Et le vin du paradis, Masha'Allah, comment qu'il est, Masha'Allah, je ne l'ai pas goûté, je ne l'ai pas encore goûté. Mais, Masha'Allah, comment qu'il est. Toute chose qui est dans le paradis, je sais qu'elle est Masha'Allah, sans l'avoir goûté. Comprenez? Alors, il en sera privé. Il en sera privé. Pourquoi? Il y a deux vins. Choisis. Ou bien tu bois ici, ou bien tu bois dans l'au-delà. Si tu bois ici ton vin, tu n'auras pas ton vin de l'au-delà. Choisis. Donc, beaucoup de gens ont préféré boire leur vin ici. Donc, ils n'auront pas là-bas, Audoubillah, ils en seront privés. Donc, je disais, il contient un grand mal. Un mal pour ta religion. Voilà, tu en seras privé dans le paradis. Un grand mal dans ta santé. Même la plupart, ils meurent, Audoubillah, avec, ils deviennent alcooliques. Ensuite, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le délaissement de tout. Naam. Ensuite, la santé, a'oudou billah. Des fois, c'est le cancer. Des fois, c'est... Il y a une maladie que j'ai oublié comment ça s'appelle, une maladie... voilà, je m'en rappelle. Il y a une maladie qui s'appelle la cirrhose. La cirrhose, a'oudou billah. Ceux qui boivent beaucoup d'alcool, ils finissent comment? Vous savez comment qu'il finit? Il finit que, quand il vomit, il va vomir des morceaux de son foie, a'oudou billah. Son foie. Le foie, il va se déchirer et devenir en miettes. Ensuite, à chaque fois qu'il vomit, il vomit une partie de son foie, a'oudou billah. Quand il vomit comme ça, ça veut dire qu'il est dans les derniers jours de sa vie, a'oudou billah. Et laisser que quelqu'un qui boit, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Il peut tuer sa mère, il peut tuer son père, il peut tuer ses enfants, il peut se tuer, il peut se jeter de l'immeuble. Il peut faire la zina avec sa mère, il peut faire la zina avec son père, il peut se... Comme a rapporté Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a dit une fois un musulman, un jeune a bu, yani, au point d'être ivre. Quand il est rentré, il a dit à sa mère, laisse-moi faire zina avec toi. Elle lui a dit à mon fils, taqillah subhanahu wa ta'ala, taqillah, tu as bu de l'alcool, va dormir. Il lui a dit, ou bien tu me laisses, ou bien je me coupe les veines. Ou bien tu me laisses, ou bien je me coupe les veines. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, quand la mère a su qu'il avait insisté et que vraiment il allait faire ce qu'il disait, elle a dit, par rahma, par miséricorde, elle l'a laissé. Elle l'a laissé faire, elle a dit, je suis entre deux feux. Ou bien je fais ça en détestant la chose, ou bien je perds mon fils qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle l'a laissé. Le lendemain, quand il s'est réveillé, quand quelqu'un boit le lendemain, il se réveille, petit à petit, son cerveau commence, sa raison commence à venir vers lui. Il a commencé à se remémorer la chose. Il est allé confirmer avec sa mère. Il lui a dit, hier, il s'est passé. Elle lui a dit, Naam, tu m'as forcé que Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Que Allah ta'ala te guide. Il a descendu la tête et il est rentré dans la salle et il s'est suicidé. Et il s'est suicidé. Donc, voyez l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Voyez l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est comme dit ici le cheikh. Allah ta'ala ne t'interdit jamais une chose qui est, yani, à 100% un bien. Quand il a interdit la chose, ou bien c'est à 100% un mal, ou bien à 90% un mal, et elle contient 10% de bien, 10% qui ne valent rien comparé aux 90% de mal. Naam. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Naam, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, innama harramaha Allah azza wa jalla min ajli maslahat al-'abd. Il a dit, toute la chose, ou la toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est pour le bien de ses intérêts. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, quant à Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadurruhu an ya'siya al-insanu rabbah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'interdit une chose et tu vas la faire, ça va pas lui faire du mal. Tu te fais à toi-même. Là qu'il y a rare, mais Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la jalousie. كيف يعلم تعالى حكيم ورحيم comment la personne sait que le croyant sait que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, rahim. Il sait que il est sage, hakim. Il sait que لا يحرم على عباده شيئا بخلا منه عليهم. Le musulman sait que Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit pas une chose par avarice. Parce qu'il est avare, il veut leur interdire une chose. Naam. Walakin min ajli maslahatihim. Mais il leur interdit une chose à cause de leurs intérêts. À cause de leurs intérêts, eux. Thumma ya'ti l'abdu fa yataqaddam fa ya'sillah. Ensuite, la personne, sachant toutes ces choses-là, elle va faire le péché. Il a dit, wala siyama fi zina. Surtout dans la fornication et l'adultère. Surtout. Cheikh a dit, Allah l'afiya, il a dit, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Il a dit, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, ma ahad aghyaru min Allahi an yizniya abduhu ou tizniya amatuhu. Hadith authentique, dans le Bukhari numéro 986. يا أمة محمد والله ما من أحير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته أو ناسيون دو محمد كومينوتي دو محمد je jure par Allah que personne n'est plus jaloux qu'Allah que son serviteur c'est-à-dire l'homme commette l'adultère ou que son serviteur la femme commette l'adultère نعم il n'y a pas plus jaloux qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il voit que son serviteur qu'il soit un homme ou une femme commettent l'adultère. Surtout l'adultère. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala devient quoi? Il a dit, لِأَنَّ الزِّينَ فَاحِشَ. Car l'adultère, c'est une turpitude. Naam. فَاحِشَ. وَزِينَ طَارِيقٌ سَافِلْ سِيِّ. Et il a dit, la zina, prendre le chemin de la zina, c'est vraiment un chemin vil. Vil. Ensuite, il a dit, وَمِنْ ثَمَّ حَرَّمَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ الزِّينَ فِي جَمِعِ وَجَمِعِ وَسَئِلِهِ. Avec femme, c'est plus grave chez Allah subhanahu wa ta'ala que homme avec femme. La preuve. Homme avec femme. Si ce n'était pas marié, on va juste les fouetter. On va les fouetter. Quelqu'un qui est fouetté, autrefois, on le fouettait avec des fois avec des souliers, avec des choses banales. Ça veut dire la plupart du temps, il vivait s'il n'était pas marié. Non. Tandis que si quelqu'un qui a fait homme avec homme, il doit mourir. Le prophète Hassan a dit, tuez, uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Tuez celui qui a fait et celui sur lequel on a fait. Car ils sont deux. Quelqu'un qui fait et l'autre en lui fait. Il a dit les deux, tuez-les. Alors que dans la zina, il n'a pas dit ça. Et les savants ont divergé dans yani la façon de les tuer. Comment qu'on les tue? Non. Certains ont dit, comme Abdullah ibn Abbas, a dit que on va les prendre, on va voir dans la ville, c'est quoi l'endroit le plus élevé. Par exemple, une tour de 80 étages. Et on les jette du 80e. On voit l'endroit le plus élevé. Par exemple, c'est une montagne ou bien une tour. On monte et on les jette. Non. Il a dit ça, qu'ils doivent mourir. Et certains ont dit on les brûle et certains... Moi-même, ils sont tous d'accord pour dire qu'ils doivent mourir. Ça, c'est plus grave. Il a dit pourquoi? Il a dit c'est pour saute. Ali Salam a dit à sa communauté, il leur a dit أتأتون الفاح ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Et Lot, quand il a dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Avant Lot, alayhi salam, jamais personne, un homme, n'avait fait ça avec un homme. Il leur a dit, vous faites une chose que parmi les mondes, jamais ne l'a commis avant vous. Et remarquez ici, si vous remarquez, quand il de Zina, il a dit Fahim. Et quand il a parlé de, vous ne m'avez pas dit comment ça s'appelle en français, on m'avait comme El Fahim. La différence entre les deux, pour que vous la compreniez bien, regardez. Quand c'est homme, avec femme, Zina, il a dit n'approchez point la fornication. C'est une turpitude. Et quand il a parlé homme avec homme, regardez ce qu'il a dit. Vous livrez la turpitude. C'est quoi la différence? Zina, c'est une turpitude. Une turpitude parmi les turpitudes. Mais quand c'est homme avec homme, c'est vous livrez-vous à la turpitude. C'est-à-dire que c'est ça la turpitude, il n'y a pas autre chose. C'est grave, vous avez compris, il n'a pas dit c'est une turpitude et quel mauvais chemin, comme il a dit dans la zina. C'est une turpitude. Il a dit non, vous vous livrez à la turpitude. Subhanallah, la turpitude. Ça veut dire c'est ça vraiment le grand péché. Il n'y a pas un autre. C'est un peu comme le prophète dit, Al-Hajj Arafah. Al-Hajj, c'est pas seulement Arafah. Le hajj, si tu tournes autour de la Kaaba, tu te coupes les cheveux, tu fais Safa et Marwa, Minan, pourquoi Muzdalifa? Pourquoi il a dit Arafa? Ça veut dire que le plus important dans le hajj, c'est Arafa. Ici, il a voulu dire le plus grave des péchés, c'est ce péché-là. C'est ça la turpitude. C'est qu'un homme fasse avec un homme, ou l'ayyadu billah. طيب et ensuite le cheikh dit et au fil du hadith et dans ce hadith il dit نعم dans ce hadith qu'est-ce qu'il y a itbat al-ghayra. Dans ce hadith on prend que quoi, et c'est ça le plus important, on prend un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle la jalousie. On prend un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle la jalousie. Wa sabil ahli sunnah wal jama'ah fihi wa fi ghayrihi min ayat sifat wa hadith sifat annahum yuthbituna لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به ويقولون إن الله يغار ليست ك وغيرته ليست كغيرة المخلوق. Il a dit أهل السنة والجماعة attestent que الله سبحانه وتعالى parmi ses attributs c'est la jalousie, mais disent que الله سبحانه وتعالى a une jalousie pas comme la jalousie يعني des êtres humains. Pourquoi? Car comme vous savez dans le verset ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Alors remarquez, Remarquez dans ce verset, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. En même temps, il a dit, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ce verset, Al-Sunnah al-Jama'a, le divise en deux. La première partie, il n'y a rien qui lui ressemble. Cette partie du verset, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est pour refuter les dires des anthropomorphistes. Ce qu'on appelle ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ou disent que les créatures ressemblent à Allah. On leur dit, on refute leur dire en disant, il n'y a rien qui lui ressemble. Si quelqu'un va dire, la main d'Allah c'est comme ma main, la vue d'Allah c'est comme ma vue, la vie d'Allah c'est comme ma vie. Sa descente, quand il descend, c'est comme monture. On lui dit, tu te trompes, il n'y a rien qui lui ressemble. Et la deuxième partie de ce verset, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est pour réfuter les dires de qui? Des mu'attila, des négateurs. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. On lui dit, tu te trompes. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Regarde comment Allah ta'ala ici s'est donné deux attributs. Il a dit, je suis l'audient, je suis le clairvoyant. Car en fait, les autres, quand ils disent que les négateurs, ils disent que Allah ta'ala n'a pas d'attributs, comme les Jahmites, les Ash'arites, etc., qui disent que Allah ta'ala a seulement cet attribut, les Ash'arites. Pourquoi ils disent cela? Ils disent car on ne veut pas ressembler Allah ta'ala aux créatures. C'est pour ça qu'on dit il n'a pas de quoi? Il n'a pas d'attributs. On leur dit vous vous trompez. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc regardez comment dans un seul verset, Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué à deux grandes sectes égarées. Les anthropomorphistes, ceux qui disent Allah ta'ala ressemble aux créatures, par le verset il n'y a rien qui lui ressemble, et les négateurs, par le verset c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ensuite, ce qu'on doit savoir, inshallah ta'ala, c'est que Al-Sunnah al-Jama'a, quand ils attestent un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que Allah ta'ala a tel et tel attribut, ils respectent toujours quatre choses. La première, sans négation. Non, je ne nie pas. Ça s'appelle en arabe ta'til. Quand Allah ta'ala a dit qu'il a telle chose, plutôt qu'il a tel attribut, ou alors tel nom, je dois le lui attester. Car il y a des gens, ou il y a des sectes, le mu'attila, les négateurs, ils disent dire ça de lui. Comme ici, tu vas lui dire que Allah ta'ala est jaloux, ils te disent, c'est impossible. Tu lui dis pourquoi? Il te dit, tu l'as fait ressembler aux créatures. C'est la femme qui est jaloux, c'est le mari qui est jaloux, c'est le père qui est jaloux. Tu es fou, tu dis que Allah ta'ala est jaloux. Cela, on les appelle les négateurs. Il a nié un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il? Jahm ibn Safwan a nié tous les attributs. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait seulement des noms. C'est pourquoi que vous lisez beaucoup dans les livres, ou vous entendez dans les cours, on dit X est un Jahmite. X est un Jahmite. X fait partie des Jahmiya. Jahmite, ça vient du nom Jahm ibn Safwan. Quelqu'un qui a vécu, et qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Il a dit, Allah ta'ala n'a attribut. Tu lui dis pourquoi? Il te dit, si tu dis que Allah ta'ala a des attributs, tu vas le ressembler à ses créatures. Donc, ils croient qu'ils font du bien en niant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on accepte les négations. Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, sans déformation. Sans déformation. Tahrif. Il y a des gens, il va te dire, d'accord, j'accepte que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs. Mais des attributs, il va leur donner d'autres sens. Pas le sens que Allah ta'ala a voulu de cet attribut, ni que le prophète a voulu de cet attribut. Par exemple, tu lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, là, dans ses attributs, la colère, radab, il te dit non, ça se fait pas. On ne peut pas. La colère, il te dit d'accord, j'accepte que Allah subhanahu wa ta'ala a la colère. Mais ça n'a pas le sens de la colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déforme. Il te dit la colère, ça veut dire, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le fait de châtier. C'est ça la colère. Et la miséricorde, Rahma, te dit comme ça. Donc, ils ont déformé. Et quelle est la différence entre celui qui déforme et celui qui nie? Toute personne qui déforme a nié. et non pas toute personne qui a une IA déformée. Je répète, toute personne qui déforme, elle a fait la négation. Et non pas toute personne qui fait la négation a déformé. Car celui qui nie, il a nié simplement. Il te dit, Allah n'est pas jaloux, Allah n'a pas la miséricorde, Allah ne descend pas, Allah ne se met pas en colère. Seulement, il a nié. Mais celui qui déforme, automatiquement, obligatoirement, il doit nier. Car quand il te dit que la colère, c'est pas la colère. La colère, c'est le fait de châtier. La miséricorde, c'est le fait de récompenser. Là, ce n'est pas lui, c'est Rahma qui descend. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la puissance. Et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a nié. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus de main, n'a plus de Rahma, n'a plus de colère, n'a plus de descente. Vous avez compris. Tout déformateur est un négateur. Et pas tout négateur est un déformateur. Donc, le déformateur reconnaît qu'Allah ta'ala a l'attribut. Mais il déforme son sens. Toi, tu lui dis, Allah ta'ala est jaloux. Il te dit non, la jalousie, c'est autre chose. Il te cite quelque chose. Il te dit la jalousie, c'est ceci et cela. Il te dit c'est impossible que Allah Ta'ala soit jaloux. Car jaloux, ça veut dire que tu ressens quelque chose dans ton cœur. Ensuite, tu ressens ceci, cela. La colère, c'est impossible que Allah Ta'ala soit atteint de colère. Et la colère, c'est le ça bouillir dans toi. Ensuite, tu deviens en colère. Il te dit Allah Ta'ala, c'est impossible qu'il soit comme ça. Donc, nous, on dit. On doit attester tout attribut sans négation, non. Ni déformation. Et la déformation, des fois c'est dans le sens et des fois c'est dans le mot lui-même. Et les deux c'est grave, mais la plupart du temps c'est dans le sens, comme je viens de citer. Il va dire que la main c'est la puissance, non. Il va dire la descente, oui, comme ça. Les Ahbesh de nos jours, les Ahbesh, ce sont les spécialistes des négateurs. Il n'y a pas plus négateur de nos jours, les Ahbesh. Les Abif ou la Abif. Ils sont en France partout. Il n'y a pas une ville en France où il n'y a pas les Ahbesh. Et beaucoup tombent dans leur filet, A'oudou Billah. Beaucoup de convertis, de reconvertis, tombent dans leur filet, A'oudou Billah. Je disais, la déformation, elle se fait des fois, ou alors la plupart du temps dans le sens, mais des fois elle fait même dans le mot. Le mot. Regardez, par exemple, il a dit dans le Coran, il a dit, c'est-à-dire, et dites rémission à nos péchés. Ya Allah, yani faites annuler nos péchés, et ensuite Allah Ta'ala leur a dit, rentrez par la porte. En vous prosternant. Donc, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, dites rémission. En arabe, il leur a dit, dites, qulu, dites, hitta. Hitta. Hitta, ça veut dire, Ya Allah, faites tomber, hein, faites annuler nos péchés. Hitta. Naam. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hinta. Hinta. Regardez. J'efface d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, dites, Hitta, ça veut dire rémission des péchés. Eux, ils ont ajouté un N. Hinta, c'est devenu farine. Farine ou bien blé moulu ou bien. Allah Ta'ala leur a dit, dites farine. Il leur a dit, dites Hitta. Hitta, ils ont ajouté un N. Ils ont dit Hinta. Donc, ils ont tout déformé. Ça, c'est une déformation. De rémission de péché, c'est devenu farine. C'est comme Allah Ta'ala lorsqu'il a dit, Istawa al-Arsh. Istawa. Naam. Istawa ala l'arche. Istawa, ça veut dire il s'est établi, s'est élevé. Istawa. Ils ont déformé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont ajouté juste une lettre. Ils ont dit Istawla. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Dans Hitta, ils ont ajouté un N. Hinta. Istawa établi, ils ont ajouté un L. C'est devenu Istawla. En arabe, Istawa, c'est élevé sur le trône, au-dessus du trône. Istawla, il a conquis le trône. Conquis. Qu'est-ce que ça veut dire conquis? Si tu dis que Allah Ta'ala a conquis le trône, ça veut dire que, astaghfirullah, il y avait un autre Dieu qui lui a pris le trône et il est entré en guerre avec lui, et Allah Ta'ala a gagné, et ensuite, il a conquis le trône, istawla. Il a repris le trône. Regardez la grande différence entre s'est élevé au-dessus du trône et a conquis le trône. A'oudou billah. C'est maintenant comme l'ahbash. Si quelqu'un vous dit istawa, ça veut dire istawla, ça veut dire qu'il fait partie des ahbash. Et avant eux, bien sûr, il fait partie des asha'ira. Des asha'ira qui sont partout. Al-Muhim. On revient. Donc, la première des choses, c'était quoi? J'avais dit sans négation. Deuxièmement, sans déformation, je ne déforme pas. Troisièmement, sans ressemblance. Sans ressemblance. Tout attribut que j'atteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, jamais je ne le fais avec ressemblance. Si je dis que Allah ta'ala a deux mains, jamais je ne dis que ses mains ressemblent à mes mains. Ou bien ressemblent aux mains de je ne sais qui, ou d'un animal, ou là, jamais de la vie. Sans ressemblance. À cause du verset, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Donc tout attribut, c'est un attribut qui lui convient, qui convient à sa beauté, naam, à sa suprématie, à sa sublimité de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah ta'ala descend, il descend d'une descente qui lui convient, il descend du ciel, une descente qui lui convient. Naam. Jamais elle n'est comme notre descente, jamais. Moi pour descendre, pour descendre ma voiture, donc je délaisse ma voiture et je descends. Allah Ta'ala descend d'une descente qui lui convient, naam, pas comme nos descentes. Il a deux yeux, naam, pas comme nos yeux. Nos yeux ont des cils, il y a le pupille à l'intérieur, ensuite au-dessus il y a des sourcils. Allah Ta'ala, c'est pas comme ça, il a deux yeux qui lui conviennent. Naam. Donc, c'est pour ça que je reprends le verset, je reprends le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez ici le verset, une seconde, naam, rien ne lui ressemble, voilà le verset. Shura. Regardez, Shura. Regardez, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audience. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala m'apprend à faire deux choses en même temps. Dans le premier verset, je ne le fais ressembler à rien de ses créatures, rien ne lui ressemble. Et dans le deuxième verset, enfin la deuxième partie du verset, je lui atteste des attributs. Regardez comment il m'apprend à joindre entre deux choses. J'atteste les attributs sans le faire ressembler. Rien ne lui ressemble, mais en même temps, c'est l'audion et le Coran. Rien ne lui ressemble, mais en même temps, les attributs. Comprenez? Donc, trois choses, sans négation, sans déformation, sans ressemblance. C'est pour ça que, comme a dit quelqu'un des selfs, il a dit, celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de main, il est kafir. Pas des mains, il est kafir. Vous avez compris? Celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de main, il est kafir. Là, il a dit, j'ai des mains dans le Coran, toi tu dis, il n'a pas. Allah Ta'ala, tous les cœurs sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah Ta'ala, ses deux mains sont là dans ce hadith. Et comme ça. Donc celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de main, il est kafir. Et celui qui dit que Allah Ta'ala a des mains comme mes mains, comme nos mains, il est kafir. Donc, toi tu es au milieu. Allah Ta'ala a deux mains qui ne sont pas à nos mains. Allah Ta'ala a deux yeux qui ne ressemblent pas à nos yeux. Allah Ta'ala a une vue qui ne ressemble pas à notre vue. Une ouïe qui ne ressemble pas à notre ouïe. Et comme ça. Dans tous les attributs. Naam. Et quatrièmement, sans chercher le comment. Sans chercher le comment. Naam. C'est pour cela que rejoindre, j'atteste les attributs d'Allah Azza wa Jal avec quatre choses. Sans négation, sans déformation, sans ressemblance, sans chercher le comment. Je ne cherche jamais comment est cet attribut. Naam. Allah Ta'ala descend. Comment qu'il descend? Est-ce que lorsqu'il descend, il laisse le trône vide? Ou bien il reste au-dessus du trône et il descend. Allah Ta'ala a une main. Comment elle est faite cette main? Naam, comment elle est faite? Elle a un poignet. Elle a des doigts avec des ongles. Elle a ceci. Jamais je ne cherche le comment. Quelqu'un est rentré chez l'imam Malik, rahimahullah. Il a dit, Ya Aba Abdillah, Allah Ta'ala s'est établi au-dessus du trône. comment qu'il s'est établi? Imam Malik rahimahullah a descendu comme sa tête comme ça vers le bas, l'âme, et il a commencé à suer. Il a commencé à suer. Ensuite, il lui a dit, Al-Istiwa, Al-Istiwa, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son élevation au-dessus du trône n'est pas quelque chose yani, qu'on ne connaît pas. C'est pas rien majhoul, c'est connu. L'âme. Ou le kif et la façon, parce que celui-là est venu demander comment il s'est établi. Il lui a pas dit est-ce qu'il s'est établi. Non, il lui a dit Ya Abdillah, comment Allah s'est établi. Il lui a dit son établissement est connu. Naam. Et le comment il s'est établi, ghir ma'qoul. On ne peut pas le concevoir. Naam. Ou su'al ou anou, et le fait de demander sur ça, c'est bid'a. C'est bid'a. Ensuite, il a dit, faites-le sortir de chez moi. Faites sortir cette personne de chez moi. Beaucoup de ahbash qui veulent tromper les gens, ils citent ce qu'a dit ici l'imam Malik. Mais ils déforment, ce sont des déformateurs. Ils disent, on a demandé à l'imam Malik, est-ce que Allah Ta'ala s'est établi? Il a dit non, l'établissement n'est pas connu, etc. C'est bid'a de questionner sur ça. Faites sortir le questionneur. Alors que ce n'est pas vrai. La personne n'a pas demandé à l'imam Malik est-ce que Allah s'est établi. Mais il lui a demandé comment Allah s'est établi. Et la personne qui cherche à chercher le comment des attributs, il devient mubtadi'. Pourquoi? Car personne ne peut connaître le comment. Est-ce qu'Allah a un comment des attributs? Oui. Allah Ta'ala a un comment. L'âme, il a deux mains, lui il sait comment elles sont. Deux yeux, lui il sait comment. Une descente, lui il sait comment. Et comme ça, dans tous les attributs, Allah Ta'ala a un comment, mais personne ne peut savoir ce comment. Même pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on le verra, inshallah, yom al-qiyamah, s'il nous fait rentrer au paradis, on va le voir, on va comprendre le comment. Mais ici, dans cette vie, celui qui cherche le comment des attributs, il devient mubtadi'. Et il va perdre son temps. Il va rester des millions d'années, il n'aura pas de solution. Donc il va perdre seulement son temps. Donc on lui dit, atteste, reconnais l'attribut sans négation, sans déformer, naam, et sans faire ressembler, et sans chercher comment, et tu seras, inshallah ta'ala, parmi ceux qui vont yani, gagner dans cette vie et dans l'au-delà. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام على رسول الله بعد شيخ première question donc je vous indique juste شيخ que moi je vous pose des questions sur le cours qui concerne le cours et Muslim vous posera les questions du salon donc qui ne concernent pas le cours donc première question question d'un frère Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse, Cheikh. Ma question est la suivante. Je suis un frère reconverti. J'ai sans cesse le doute dans mon cœur. Je doute sans cesse de ma sincérité envers Allah. Je me sens hypocrite dans tous mes actes d'adoration. Je doute beaucoup de moi-même et je ne sais comment y remédier. Pouvez-vous me donner quelques naseha? Qu'Allah vous bénisse, Cheikh, et qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, et qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Barakallahu fikoum.
Pour la personne qui avait dit que c'était une reconvertie, et que c'est un frère qui a des ouswes, etc., je lui dis. Akhi Karim, d'abord, Alhamdulillah, louange Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Qui t'est aidé et a ouvert ta poitrine à l'islam et t'a sauvé de l'enfer éternel. T'a sauvé de l'enfer éternel. C'est-à-dire que maintenant, même si jamais, l'aqdar Allah, si jamais, tu vas rentrer, si jamais, mais tu en sortiras pour aller un jour au paradis. C'est ça, yani la différence, alhamdoulilah, entre le croyant et le mécréant qui rentrera en enfer éternellement. Et malgré cela, nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne de l'enfer et qu'il nous fasse rentrer directement à son paradis. Tayyib. Donc, attention, ne laisse pas le shaitan jouer de toi et te dire que tu es hypocrite et que pour qu'à la fin, il te dise donc Il n'y a aucun changement entre l'état dans lequel tu étais et dans l'islam. Tu es toujours hypocrite. Peut-être que il va même te dire que en étant mécréant, tu étais mieux. Au moins, tu étais sincère. Non, sincère, carrément, je faisais ceci, cela, je faisais haram. Mais maintenant, tu es hypocrite. Attention qu'il te dise cela. Non, personne ne t'a forcé à rentrer en islam. Tu es rentré, bi-idhnillahi ta'ala, de ton propre choix, aidé et raffermé par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si tu voulais, tu aurais pu prendre le micro et dire, je suis plus musulman, j'insulte l'islam, j'insulte. Mais toi, alhamdoulilah, tu fais tes salats à l'heure, tu fais, yani, ce que tu peux pour apprendre l'islam, tu, yani, fais des efforts pour t'approcher davantage. Hein? Donc, c'est le shaitan qui veut jouer de toi et te faire sortir carrément, yani, du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te retrouver dans le parti du shaitan, a'oudou billah. Donc, je te conseille quoi? De ne pas donner beaucoup de temps libre à toi-même. C'est-à-dire de t'occuper à écouter des cours, à lire des choses, à être avec des frères en train de discuter sur le dîn, et comme ça, pour ne pas laisser à ce shaitan, a'oudou billah, d'avoir le dessus sur toi. Et n'oublie pas toujours, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu sens que le shaitan est avec toi, tu tournes vers la gauche, l'épaule gauche, tu craches trois fois, tu dis a'oudou billah minash shaitanir rajim, Allahu ahad, Allahu samad, amantu billahi wa rasulihi, Allahu ahad, Allahu samad, et comme ça, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver. Et nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir ton cœur et de te faire mourir croyant, mouwahid bi-idhnillah. Tfadhal.
Question suivante, question d'ordre général d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum. Quand lève-t-on les mains dans les prières? Est-il permis de le faire à chaque takbiratul intiqal? Zadakumullah fil ilm an-nafi'. Tfadash.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On doit lever les mains, au moins dans trois choses. La première, quand je dis Allahu Akbar, je lève mes deux mains. Ensuite, je lis, etc. Ensuite, quand je veux descendre, je dis Allahu Akbar, je lève mes mains pour descendre. Et ensuite, quand je vais dire Sami Allahu liman hamida, et je lève les mains. Sami Allahu liman hamida, je lève les mains et je dis en même temps Rabbana wa lakal hamd. Dans ces trois-là, inshallah ta'ala, il n'y a pas de divergence. Mais c'est permis de temps en temps de faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que vous pouvez trouver dans le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui s'appelle La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son début jusqu'à la fin, comme si tu le voyais alayhi wa sallam. Le hadith là, vous pouvez le trouver dans ce livre là où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Depuis qu'il disait Allahu Akbar, il levait ses mains dans chaque descente et chaque montée, jusqu'à ce qu'il dise salam alaikum. Je donne un exemple. Je me mets debout, je lève mes mains, je dis Allahu Akbar. Je lis. Ensuite, je veux m'incliner. Je dis Allahu Akbar. Je lève les mains et je m'incline. Ensuite, je dis ce qu'il faut dire. Ensuite, je veux dire Sami Allah li Muhammad. Je lève mes mains, je dis Sami Allah li Muhammad. Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, je veux dire Allahu Akbar pour me prosterner. Je lève les mains. Je lève les mains, je dis Allahu Akbar. Je me prosterne. Je dis ce qu'il faut dire dans la prosternation. Maintenant, je dois m'asseoir entre les deux prosternations. Qu'est-ce que je dis? Je suis prosterné. Je dis Allahu Akbar. Je lève mes mains les deux et je m'assois. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ensuite, je dis Allahu Akbar, je lève mes mains. Allahu Akbar, je lève mes mains et je me prosterne. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan. Ensuite, je fais des doigts ou je n'en fais pas. Ensuite, je dis Allahu Akbar et je lève mes mains. Je lève mes mains et je dis Allahu Akbar et je me relève. Je me relève soit en faisant Jis Istiraha, soit en me relevant directement, mais bien sûr avec Jis Istiraha c'est mieux. Donc je lève mes mains aussi et je m'assois pour me relever. Et comme ça, dans toutes les rak'at, si je fais deux rak'at, c'est deux, si je fais quatre, quatre. Ça, c'est une sunna qu'il faut faire de temps en temps pour, inshallah ta'ala, être parmi ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps pour ne pas laisser une sunna pareille mourir. Pour ne pas laisser une sunna pareille mourir. Et celui qui est la cause de la revivification d'une sunna, Yani, vous savez qu'il a, inshallah ta'ala, une grande, grande récompense demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tafadhal.
Barak Allah fikoum cheikh. Si vous regardez dans votre PV, je vous envoyais trois questions. Et en fait, les trois questions, c'est sur le même thème, donc je vais vous les lire toutes les trois, pardon. Et vous allez voir que c'est à peu près le même thème. Donc la première question du frère, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi Cheikh Anna. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, jazakumullahu khaira. Quel est le dalil qui prouve qu'Allah Ta'ala a deux yeux? Allahu a'lam, je pense que c'est par rapport au hadith qui parle du Dajjal qui est borgne. Et Allah n'est pas borgne. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit et Allah a deux yeux. Mais plutôt, il a dit votre Seigneur n'est pas borgne. Pourquoi cette parole implique forcément qu'Allah a deux yeux? La deuxième question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Et Cheikh Anel Karim, Cheikh, pouvez-vous me donner la preuve qu'Allah Ta'ala a deux yeux? Wa'azamallahu ajrakum. Jazakumullahu khayra. Et question d'un frère, toujours. Salam alaykoum, Cheikh Anna. Hafidhakumullah. Vous avez cité les deux yeux d'Allah. Pouvez-vous nous réexpliquer pourquoi nous disons le chiffre 2 pour les yeux d'Allah? Car j'ai toujours du mal à dire deux yeux, même en lisant les explications liées au Dajjal, qui lui est bon. Barakallahu fikum, Cheikh.
Masha'Allah, pour avoir donné les trois questions en même temps. Puisque, en fait, les trois, elles parlent du même thème. Elles parlent du même thème. Donc, répondre à l'une des personnes, c'est répondre aux trois autres. Naam. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que quoi? N'a pas dit qu'il avait des yeux comme ça, explicitement et carrément. Naam. Comme il n'a pas dit explicitement aussi que le coursi, c'est le reposoir, là le repose-pied. Il n'a pas dit ça aussi, même clairement. Et pourtant, les savants des salaf disent que le coursi, c'est pas l'arche, et le coursi, voilà son explication, c'est le repose-pied. El Mouhim, tous les savants des salaf sont unanimes pour dire qu'Allah Ta'ala a deux yeux à part la vue. Car certains se trompent et croient que, on va dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. On va dire qu'Allah ta'ala a la vue. Allah ta'ala voit, ça suffit. Si on dit avec les yeux, il te dit non. Ne dis pas avec les yeux. Dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cite les yeux. Fa'innaka bi'ayunina. Et il a dit, tajri bi'ayunina. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Wali tusna'a ala ayni. Allah ta'ala dans le Coran a cité ou bien un œil, ou bien des yeux. Ou bien un œil, ou bien des yeux. Non. Le hadith du Dajjal, où le prophète alayhi salam, a dit que Allah ta'ala n'était pas borné. C'est-à-dire, il a dit, comment vous allez suivre celui-là qui prétend être votre Dieu alors qu'il est borgne? Ensuite, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas borgne. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, disent que, même Cheikh Al-Albani aussi, mais surtout Cheikh Ibn Uthaymeen, disent que le prophète alayhi a voulu montrer que il y a un Dieu, le vrai, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, et il y a le faux l'antéchrist, le Masih Dajjal. Le Masih Dajjal est borgne. Et le borgne, c'est celui qui a seulement un œil. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Naam. Et le prophète sallam a bien montré que, ici, la différence, c'était les yeux. Il a dit, celui-là, il est borgne, attention. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, n'est pas borgne. S'il n'est pas borgne, ça ne veut pas dire qu'il est aveugle. Mais ça veut dire que c'est une qualité. Ça veut dire qu'il a donc deux yeux au minimum. Au minimum, il a deux yeux. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen, et Cheikh Al-Albani aussi se base sur ce hadith. Donc, s'il n'est pas borné, le borné a un seul œil, donc Allah subhanahu wa ta'ala a au moins deux yeux. Mais, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, si l'on avait plus, si l'on avait trois, quatre, cinq, naam, alors le prophète alayhi sallam n'aurait pas, naam, n'aurait pas dit que seulement il n'était pas borgne, Allah subhanahu wa ta'ala. mais il l'aurait cité avec ses belles qualités, qui sont 3 yeux au lieu de 2, 4 au lieu de 3, 5 au lieu de 4, 10 au lieu de 9. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, on lui fait les éloges en lui donnant les plus beaux attributs, les plus beaux noms. S'il en avait plus que 2, c'est ici que le prophète aslam aurait cité le dalil. Mais comme il a dit seulement qu'il n'est pas borgne, toute personne qui n'est pas borgne doit avoir obligatoirement 2 en parlant des personnes. Toute personne qui n'est pas borgne, obligatoirement, doit avoir 2 yeux. Allah subhanahu wa ta'ala a 2 yeux, c'est quoi? C'est le madhhab des salafs. Il me suffit, non, même si je n'ai pas d'ali ou là, c'est un exemple là, j'ai cherché, j'ai pas trouvé là, il me suffit d'être parmi les salafs et d'attester comme eux. Non. Et il y a une fatwa de Cheikh Ben Baz et de beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'avais même un fichier quelque part ici, spécialement Naam, qui parlait des yeux. Dommage que maintenant je ne l'ai plus chez moi. Je dis à la sœur qui m'entend et qui sait que je lui ai envoyé une fois ce fichier, s'il est maintenant, il n'est pas loin d'elle, qu'elle me l'envoie, inshallah ta'ala, maintenant sur mon mail, inshallah ta'ala, pour que je le lise comme ça vite. Allez, on passe, inshallah ta'ala, à une autre question et on revient.
Question suivante, question d'un frère, question d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous élève en degré ainsi que les admins. Amen. J'avais plusieurs sacrifices de retard pour les aqiqa de mes fils et je les ai rattrapés sauf un, mais je ne sais plus pour lequel de mes fils. J'avais lu dans une risala qu'au moment d'immoler, on dit Allahumma taqabbal min et on nomme l'enfant, le nom de l'enfant. Quelle invocation dois-je faire au moment du sacrifice dans mon cas, quand on ne se rappelle plus, pour quel enfant doit-on le faire? Barakallahu fekoum, wa jazakumullahu khayran. Allah vous accorde le firdaous, cher, ainsi que les admins. Amin. Tfadda, cher.
Wa alaykoum salam, rahmatoullah wa barakatuh. D'abord, je dis à ce frère, barakallahu fik, subhanallah al-azim, ce frère, barakallahu fik, pour ce couple, hein, qui a pu aller rattraper pour leurs enfants, alors que yani, ça demande l'argent, ça demande vraiment yani, d'iman dans le cœur et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous bénir votre argent et vos enfants. Al-Muhim, pour la question ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ils immolent seulement, yani, c'est pas obligé de citer le nom de l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Seulement ils disent Bismillah, Allahu Akbar, Allahu taqabbal minni, wa min ibni, et mon fils, ça suffit bi'idhni ta'ala. Et même s'il dit même pas mon fils, Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce couple, ou que ce frère, veut immoler pour son fils X ou la Y. Et ça suffit bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Prochaine question, question d'un frère qui dit: Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Concernant les péchés que vous avez cités, j'ai lu un hadith qui dit que la hijra efface les péchés. Est-ce que, en plus de la tawba, est-ce que ce hadith est authentique? Et y a-t-il un doa pour expier les péchés? Barakallahu fikoum.
Une seconde, Inch'Allah, je jette un coup d'œil dans ma boîte. Peut-être que j'ai reçu le fichier, Wallahu a'lam, mais je reviens une seconde. Alaykoum salam, wa barakatuh. Donc, j'ai pas reçu le fichier. Je crois que la sœur n'est pas avec nous. Non, la sœur n'est pas avec nous dans la liste. Wallahu ta'ala a'lam. La sœur s'appelle Islam 2. Je crois qu'elle n'est pas avec nous, Wallahu ta'ala alam. Al-Muhim, est-ce que Allah ta'ala la question? Tfadlal.
Ibn Mohamed, tfadal, Inch'Allah, c'est à toi. Et cher, je vous ai envoyé un whisper. Dites-moi si c'est ce que vous recherchez. Tfadal, Ibn Mohamed.
Donc la question du frère était: Assalamu alaykum wa rahmatullah, cher. Concernant les péchés que vous avez cités, j'ai lu un hadith que la hijra efface les péchés, en plus de la tawba. Est-ce que ce hadith est authentique? Et y a-t-il un doa pour expier les péchés? Barakallahu fikoum, cher.
Naam, le hadith de la hijra qu'elle annule ce qui l'a précédé est authentique. Où le prophète sallam avait dit que ne sais-tu pas que la hijra annule ce qui l'a précédé et que le hajj annule ce qui l'a précédé. Il dit, s'y a-t-il un doigt spécial? Il n'y a pas. Il n'y a pas un doigt spécial pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'expier les péchés. Mais on lui demande pardon et on lui demande de nous expier. Ou alors les hadiths qui, Allah maghfir lana dhunubana, ou bien comme il a dit à Abu Bakr Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katiran wa la aghfir dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indika wa rahma. Wa rahmatan. اغفر لي مغفرة وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اي كوم سا تفضل.
Question suivante, question d'une sœur d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur de France avait épousé un homme qui se trouve lui actuellement dans un pays musulman. Et ce dernier l'a répudié il y a environ 2 mois maintenant, prétextant que sa femme n'était pas sous ses ordres. La sœur affirme qu'elle a eu un mauvais comportement car elle ne supporte plus que cet époux ne suive pas le minhaj salafi. Ses dires et ses agissements ne prouvent pas qu'il suive le minhaj, mais il s'efforce de lui affirmer le contraire, et ne cesse de lui mentir et donne comme argument que l'époux a le droit de mentir à son épouse. À cause de ces raisons qui mènent constamment à des conflits, l'époux lui demande à ce qu'elle réfléchisse bien, si elle souhaite une réconciliation, afin ou alors qu'il aille jusqu'au bout de la procédure de divorce pour ne pas reprendre son épouse. La sœur ne sait plus quoi faire, elle a peur pour son dîn et la voix que suivra son enfant si elle retournait auprès de lui. Mais en provoquant ce divorce, elle a autant peur des conséquences comme devoir assumer la responsabilité de sa fille toute seule dans un pays de kofl, comme faire garder sa fille par des non-musulmans, sortir de son foyer pour aller travailler, peut-être dans la mixité et sans voile. Quel serait le moindre mal pour cette sœur? Conseillez-la, s'il vous plaît, afin qu'elle ne prenne pas la décision dans l'ignorance. Barakallahu fikoum pour vos précieux conseils. Qu'Allah azawajal vous augmente davantage en science. Amin. Tfadashir.
Cher la sœur en question cherche le fichier, Inch'Allah. Naam, subhanallah, le fichier, je l'avais, je l'ai toujours eu. Seulement, ce qui s'est passé, j'ai dû lui donner un autre nom. J'ai dû lui changer de nom. C'est pour ça que j'ai dû, comment qu'il s'appelle. Mais musulman, mais c'était pas ce que j'ai lu. Mais c'est pas ce que je cherchais. J'ai lu, naam. Barakallahu fik. El-Mohim, si elle arrive à trouver le fichier, elle me l'envoie, qu'elle me fasse, Inch'Allah Ta'ala. Je disais, cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, qui vient de poser cette question, Inch'Allah Ta'ala, est quand même assez intelligente. Naam, car elle dit qu'il y a mal plus grand que mal. Elle a dit, naam, peur des conséquences, etc. En décision, qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, quel serait le moindre mal pour cette sœur? Elle sait donc qu'il y a grand mal et petit mal. Non. Je pense, wallahu alam, je lui dis, je pense. Si le frère, yani, n'est pas contre les salafs, n'est pas contre, et toi, il te laisse apprendre, il te laisse avancer, il te laisse. Non, pourquoi chercher le divorce? Pourquoi? Et ensuite, regarde à quoi ça mène. Assumer toute seule avec une fille, rester dans un pays de coffre, et ensuite peut-être aller travailler. Si on va travailler, on enlève le voile. Non. Donc le moindre mal, l'âme serait d'accepter tant que, yani, il me laisse tranquille, il me laisse apprendre mon dîn, il me laisse. Et lui, l'âme, c'est lui qui va endosser Yom al-Qiyamah. C'est lui qui va endosser Yom al-Qiyamah. Mais comme j'ai dit, à condition qu'il ne soit pas quelqu'un de contre. C'est pas quelqu'un qui insulte les savants et quelqu'un qui est contre. Ceci et cela, vous comprenez. Mais c'est quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui te dit, moi, laisse-moi tranquille, je prie ma prière et je vais travailler, je reviens. Et toi, yani, reste avec tes savants et tes cours, etc. Maalesh, je suis pas obligé que tout le monde, yani, on doit être tous salafis, sinon on peut plus se marier. Vous avez entendu la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz? Si vraiment on est dans des difficultés, avec qui on peut se marier? Naam. Et fais l'istikhara, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, yani, t'orienter et te donner la clairvoyance dans ton affaire, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. J'aimerais juste savoir si repousser la salat sans raison apparente, mais la faire sans la sortir de son temps, rentre dans le verset où Allah Azza wa Jal dit, dans le sens rapproché, malheur aux prières. Car un jour j'ai entendu dans un dars que les salat se divisent en plusieurs parties au niveau du temps. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, la salat, si on parle pas de dhuhr, ou bien salat asr, ou bien maghrib, ou bien isha, surtout ces quatre. Naam. Même le subh, mais le subh, vous savez, c'est pas yani, vraiment long. Sinon, comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna li salati awwalan wa akhiran. Comme ça, il a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, qui a dit authentique. Il a dit, la salat a un début et une fin. Et il a cité chaque salat, où elle commençait et où elle se terminait. Non. Sauf quand il a parlé du Maghreb, je crois. Al-Muhim, je dis, l'essentiel, c'est quoi? C'est de prier entre ces deux heures, entre ces deux moments. Plus c'est vers le début, plus les récompenses sont grandes. Mais que le deuxième moment n'est pas rentré, tu as obéi à Allah et tu n'as pas désobéi, même en la retardant. Vous avez compris? C'est l'or. Je donne un exemple. Il commence à 13h, par exemple, à 13h. Et le asr à 15h, c'est un exemple. Le l'or commence à 13h, le asr rentre à 15h. Donc, le début du dhuhr, c'est 13h. La fin du dhuhr, c'est 15h. Car, quand le dhuhr se termine, commence le asr. Ils se rencontrent dans une minute ou une seconde, et ensuite, celui-ci, son moment sort, l'autre, son moment rentre. Al-Muhim, une personne va prier à 13h, une minute. Et l'autre, elle va prier à 14h, 59 minutes. Les deux ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas de péché. Mais le premier qui a prié à 13h, une minute, aura, par exemple, je donne un exemple, aura 1 million de récompenses. Et celui qui a prié à 14h59, une minute avant la rentrée du Asr, il aura, par exemple, 10 récompenses. Vous avez compris? L'autre 1 million et l'autre 10, par exemple. Car le minimum, c'est 10. Donc, tant que je ne fais pas sortir ma salat de son moment entre les 2 heures, je suis dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus je la fais vers le début, plus les récompenses sont grandes. Plus je la retarde, plus les récompenses commencent à... Non. Donc elle n'est pas dans le verset. Non, elle ne rentre pas dans le verset. Non, rentre dans le verset celui qui, par exemple, il va laisser salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Il va laisser salat al-maghrib jusqu'à ce que rentre l'isha et ça fasse tout noir dehors. Il va laisser salat al-subh jusqu'à ce que le soleil se lève alors qu'il ne dormait pas. Celui-là, il rentre dans le verset. Naam. Puisse Allah nous préserver. Tfadla.
Question suivante. Question d'un frère d'ordre général. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Amen. Une sœur demande. Nous sommes un couple de reconvertis, walhamdulillah. Nous avons fait le mariage religieux et j'ai proposé à ma mère non musulmane d'assister à la walima que nous avons fait en petit comité. Elle a refusé. Elle m'a ensuite reproché de ne pas avoir fait une fête de mariage avec toute la famille réunie. Nous avons donc décidé, mon mari et moi, de faire une fête à l'occasion du mariage civil pour pouvoir inviter tous les membres de nos familles. Au vu de notre nombre, le mariage risque de nous coûter pas loin de 2000 euros. Ma question est-ce nécessaire de faire cette fête, sachant que nous avions pour projet de partir étudier, faire le hajj et aussi la hijra bi'inillah? Qu'est-ce qui est prioritaire? Barakallahu fikum. Tfadda cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sûrement que ce que vous avez cité en dernier, les obéissances que vous avez citées en dernier, sont prioritaires bi'idhnillahi ta'ala. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, faisait une petite fête où on ne mangeait qu'un peu de dattes et des fois un peu comme une farine comme ça, naam, comme une farine, des fois un peu de miel, des fois, naam. Mais je dis, je ne suis pas obligé, par exemple, d'inviter, par exemple, comme ça, tout le monde, yani, en faisant une fête pareille. Je peux me limiter, par exemple, aux proches. Aux proches, par exemple, mon père, ma mère, mes soeurs, mes tantes, naam, quelques cousines, mais je vais pas ramener tout le monde pour que ça monte à comme ça 2 000 euros, je ne sais pas quoi. Naam, je peux, yani, essentiel, ravir les proches, surtout mes parents, mes tantes, mes soeurs, mes cousines, les proches. Naam. Wallahu alam, si c'est possible comme ça, peut-être que ce sera une occasion pour les gens, yani, ils ont jamais vu c'est quoi, yani, un mariage de musulmans et que comment ils s'entendent, mashallah, et que peut-être, Allahu alam, ça fera un déclenchement à certains, Allahu alam. Personne ne peut dire que yani, telle ou telle personne ne va pas yani, embrasser l'islam. Naam. Peut-être que ça sera yani, un déclic pour quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si ça donne le ravissement des parents, puisque la mère n'était pas contente, etc. Donc, Allah ta'ala, si c'est possible, de faire au moins une petite chose et de dire que voilà, yani, c'est tout ce qu'on peut matériellement. Car yani, l'argent est déjà mis pour certains projets. Ou alors, c'est même pas obligé de dire ça, Wallahu alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère qui dit: Salam alaykoum, hayakoum Allah. Qu'Allah vous accorde le Firdaus, ainsi qu'à notre Ummah. Cher Hafidhakoum Allah. Allah Azza wa Jal est-il au-dessus de son trône ou sur son trône? Barakallahu fikoum.
Fikum barakallah. Allah Ta'ala est au-dessus de son trône. Il n'est pas sur son trône. Naam. Si on veut dire par sur, au-dessus, ma'alish. Mais pour éviter l'amalgame, on dit au-dessus. Car quelle est la différence? Si tu dis il est sur son trône, les gens entendent dans sa pensée qu'il y a yani, un toucher. Je suis sur la chaise. Si tu enlèves la chaise, je tombe. Comprenez? Je suis sur la terrasse. Mes pieds sont sur la terrasse. Si jamais la terrasse tombe, je tombe aussi. Naam. Mais quand tu dis il est au-dessus du trône, tu enlèves l'ambiguïté du toucher. Car moi, quand je dis le ciel est au-dessus de moi, personne ne peut me dire qu'il touche ma tête. Et quand je dis le plafond est au-dessus de moi, naam, personne ne peut me dire que le plafond touche ma tête. Quand je dis le nuage est au-dessus de ma tête, il touche pas ma tête. Vous avez compris? C'est pour ça que quand tu dis que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, tu as enlevé l'ambiguïté du toucher. Mais si tu dis il est sur le trône, certains vont comprendre que donc il y a un toucher entre Allah Ta'ala et le trône. Wallahu Azza wa Jalla alam, tfadlal. Donnez-moi juste une seconde, je vais moi-même jeter un coup d'œil, peut-être je vais trouver le fichier. Une seconde. Hein.
Non, mes chers, concernant le fichier, vérifiez tout de même le lien que je vous ai envoyé. Regardez la partie 4, car il parle de la partie borgne ou cyclope. Regardez s'il n'y a pas tout de même le Amatullah qui a posé une question sur le site en rapport avec des loyers et le dépannage d'un jeune couple, de contacter le frère Faouzi du 30, Inch'Allah. Qu'elle contacte le frère Faouzi du 30.
Et pour ne pas perdre de temps, je vais laisser Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine, peut-être que je vais le trouver Inch'Allah Ta'ala. Taïb, est-ce qu'il y a une question Inch'Allah Ta'ala?
Non, chère, question suivante. Et le frère Faouzi a indiqué que la sœur avait trouvé le fichier. Donc, Allahu alam, elle peut être envoyée sur le mail, chère. Une question d'une sœur. Qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous fasse miséricorde. J'ai pris connaissance de l'obligation de zakat el-mal et de l'interdiction de percevoir des intérêts bancaires sur les comptes épargne en 2010. Suite à cela, j'ai commencé à payer la zakat sur la richesse et j'ai clôturé mes comptes épargne. Ma question est: qu'en est-il de ce que j'ai acquis en intérêt et le non-paiement de la zakat avant l'année où j'en ai pris connaissance, c'est-à-dire 2010? Suis-je pardonné et non redevable dû à mon ignorance ou suis-je toujours redevable? Si oui, jusqu'où Dois-je retourner en arrière pour payer la zakat et me débarrasser des intérêts? Tfadal, cher.
Non, je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, ou là à ce frère, à partir de l'année ou du moment où j'apprends que la zakat est obligatoire, c'est à partir de ce moment-là que je dois payer la zakat. Non. Pour les autres années, Inch'Allah Ta'ala, la personne est pardonnée car elle ne l'a pas fait exprès. Si elle savait, elle aurait des péchés. Mais à partir du moment où on apprend le haram, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à appliquer Bidnata et on ne revient pas en marche arrière. Comme la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit que elle avait des métrorragies, elle croyait qu'elle avait les menstrues. Elle avait des métrorragies, elle croyait que avec les métrorragies, on ne prie pas. Elle a dit à Rasoulallah, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas prié. Il lui a montré que c'était les métrorragies. Avec les métrorragies, on prie. Al-Muhim, le témoin, c'est quoi? Il ne lui a pas dit, va rattraper les mois ou les années où tu n'as pas prié avec les métrorragies. Mais il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu commences, lave-toi et tu commences à prier. Naam. Donc la personne, quand elle apprend que quelque chose est haram ou là, c'est à partir du moment où elle a appris. Tout ce qui est passé, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Maintenant, fait comme cher. Question suivante, question d'affaires qui dit: Assalamu alaikum, cher. Que conseillez-vous à une personne qui a fait la zina en n'étant pas mariée? Est-ce que la tawba suffit ou doit-il faire plus? Et là aussi, cher, je vous ai regroupé avec, j'ai regroupé une autre question. Il dit: Que pensez-vous de Cheikh Imran Hossein qui dit que la zina commise entre deux personnes non mariées a le même châtiment que pour ceux qui le font en étant mariés? Et que le hadith concernant ce sujet est inventé. Donc, cher, est-ce que la zina a le même statut pour un homme marié et celui qui n'est pas marié? Est-ce que le hadith qui parle de ça est inventé ou est-il sahih? Et est-ce que la tawba suffit? Barakallahu fikoum, cher.
Wa'alaikum salam. Quelqu'un qui a fait la zina, il a fait un grand péché. Et au moment où il faisait la zina, il n'avait pas la foi parfaite. Non, il n'avait pas la foi parfaite. Et comme a dit Abdullah ibn Abbas, la vraie foi est sortie de lui. Et ce qui est resté, c'est la base de la foi. C'est tout pour qu'il ne devienne pas kafir. Mais la vraie foi, la belle foi, est sortie de lui et était comme. Maintenant, pour le repentir, c'est, vous connaissez les conditions du repentir, les cinq conditions. Il y en a les trois qui sont connues que il regrette et il décide de ne plus faire et il arrête sur le champ. Il arrête sur le champ, il regrette, il décide de ne plus faire. Ce sont trois conditions. Les deux autres, la sincérité, il a fait ça pour Allah, pas pour les gens. Et la cinquième, il l'a fait avant de mourir, alhamdoulillah. Masha'Allah. Naam, la tawba suffit, mais si la personne veut faire quelque chose en plus, c'est mieux. Si elle veut par exemple jeûner des jours ou bien donner quelque chose en aumône ou là, ça ne fait rien. Naam. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, des fois il disait seulement une chose, naam, il restait des jours et des jours à jeûner, naam, se faire pardonner. Naam. El Mouhim. Donc ça revient à lui. Ensuite, la personne dit ici que. Il dit que Zina, Cheikh Imran Hussein. Imran Hussein, je ne connais pas, c'est la première fois dont j'entends parler. Il dit que la Zina commise entre deux personnes non mariées a le même châtiment que pour ceux qui le font en étant mariés. Et que le hadith concernant ce sujet est inventé. Donc, déjà en disant cela, il ne faut plus l'appeler Cheikh. Cheikh Imran Hussein, là, c'est la première fois dont j'entends parler, il ne faut plus l'appeler Cheikh. Quelqu'un qui. Et j'ai peur que ce soit quelqu'un qui ne prenne pas avec la Sunna. Peut-être qu'il ne prend pas avec la sunna ahad. Al-Muhim, le hadith très clair dans tous les livres que y a la différence entre le célibataire et le marié. Quand on dit célibataire ou bien marié, le célibataire c'est connu. Et le marié c'est connu, mais il faut bien connaître une chose. Quoi? Célibataire, c'est pas quelqu'un par exemple qui vit seul, qui n'a pas d'époux pour l'instant. Alors que, par exemple, non, s'il s'est marié une fois dans sa vie, on ne dit plus de lui qu'il est célibataire. Si un homme ou une femme s'est marié une fois dans sa vie, ensuite a divorcé ou là le mari est mort ou là, on dit plus de lui ou d'elle que c'est célibataire. Ça veut dire que si elle fait la zina ou il fait la zina, ils doivent être quoi? Fouettés. Naam, fouettés. Afouen, pas fouettés. Lapidés, lapidés. Mais, s'il ne s'est jamais pari, s'il ne s'est jamais marié, jamais de sa vie, il ne s'est marié. Que ce soit un homme ou une femme, les deux sont vierges. Dans ce cas, s'il fait la zina, il doit être fouetté. Il doit être fouetté, bilna ta'ala. Imran Hussein est un soufi qui critique les salafis. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigner de nous et son égarement. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala égarement. Tfadlal.
Alors, question suivante, question d'un frère d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis un frère qui a fait la hijra. Ne connaissant pas bien le pays, j'ai été pas mal arnaqué et je me retrouve maintenant avec de très grandes dettes. Celles-ci me préoccupent tellement car j'ai une énorme pression au point où je sens ma foi très faible. Je n'ai plus la force d'assister aux cours, je ne mange presque plus et cela joue même dans mes relations avec ma femme car je n'ai plus le cœur à rien. D'autant plus que maintenant je n'ai presque plus de quoi m'acheter, de quoi manger. Pour moi et ma famille. Que me conseillez-vous, cher? Fadal, cher.
قدر الله عز وجل عليكم السلام تبارك قدر الله عز وجل puisse الله سبحانه وتعالى يعني te faire une issue puisse الله te faire une issue donc ان شاء الله تعالى non, comment faire pour te débrouiller يعني comment يعني au moins faire manger la famille ensuite الله سبحانه وتعالى fera une solution pour les dettes à cause du prophète à cause du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم authentique où il est dit que الله سبحانه وتعالى que toute personne qui a des dettes et qui a dans son intention de les payer, que Allah Ta'ala l'aidera. Hadith authentique. Toute personne qui a des dettes, Allah Ta'ala regarde dans ton cœur. C'est quoi ton intention? C'est d'escroquer les gens ou bien de rendre les dettes? S'il voit dans ton cœur de les rendre une fois que tu as l'argent, Allah Subhanahu wa Ta'ala promet qu'il va t'aider. Naam. Toi, trois personnes. L'endetté, le mujahid et celui qui veut se marier. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, essaye de bouger un peu, yani, pour voir comment Inch'Allah Ta'ala, yani, ne pas laisser la famille yani, dans ce problème. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala te fera une solution. Allah Ta'ala a dit que ta subsistance se trouve dans le ciel. Au fils sa mère, il comme on met wa'adun. Et le prophète Aslam a dit qu'aucune âme ne mourra sans avoir terminé sa subsistance. Bouge un peu, fais beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, il te fera une solution. Surtout que tu es quelqu'un qui a fait la hijra. Naam, si tu es quelqu'un qui a fait la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver un peu et lui ouvrir les portes bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Si c'était possible, yani on aurait aidé. Lakin la ghalb, on est tous, yani, qaddar Allah ma sha'a fa'al. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Naam, akid, le shaitan veut profiter ici et te dire, voilà, tu étais bien en France, il te manquait rien, etc. Regarde, tu as fait la hijra, voilà ce qui t'est arrivé. Naam. Attention que le shaitan, yani, te dise comme ça. C'est juste une épreuve, inshallah ta'ala, qui et bi-idhnillahi ta'ala, Allah te fera une solution. Tu es où, le frère Reda? On me demande où est le frère. Y a-t-il une autre question? En Algérie, Naam. Où en Algérie?
Ibn Mohamed, c'est à toi ou là, moi, pour la question suivante? Allahu a'lam, c'est à toi, akhi. Tfadal.
Naam, barakallahu fik, j'avais oublié. Prochaine question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous récompense. Par rapport à la tricherie, j'ai fait de graves erreurs sur du long terme. Shaitan m'a mis une sorte de voile devant mes yeux pour m'embellir mon péché. Maintenant, je me rends compte de ma grosse erreur. Je veux me racheter en remboursant 300 euros à ma mère. Je lui ai pris dans son dos sur du long terme. Qu'Allah me pardonne. Amen. J'ai beaucoup de ouswas. pendant ma période de menstrues, comment je peux me racheter auprès d'Allah? Ça me hante nuit et jour, je n'en parle à personne de peur de faire une erreur en racontant mes péchés. Comment me repentir? Comment me faire pardonner par Allah Azzawajal? Barakallahu fikoum, cheikh.
Je voudrais poser deux questions sur cette question. Ibn al-Jazayri, tu es là? Tayyib, est-ce que, pour voir si on a compris la même chose, est-ce que son problème, c'est avec sa mère, donc elle lui a pris 300 euros, elle va les lui rendre, elle demande comment les lui rendre, etc. Et deuxièmement, pourquoi elle a parlé des menstrues? Fadal.
Cher, par rapport aux menstrues, je pense que quand elle a ses menstrues, le ouswas grandit. Donc elle a encore plus d'ouswas. La question, c'est qu'elle a pris apparemment de l'argent à sa mère. Et donc au début, elle ne voyait pas ça comme un péché, Yannick. Shaitan lui avait embelli ça. Et maintenant, ça la préoccupe beaucoup. Elle veut savoir comment faire, cher, pour se repentir envers Allah, Azza wa Jal. Et s'il y a d'autres conditions en plus de la tauba. Wallahu a'lam.
Naam. Si elle a l'argent, elle le rend à... Naam. Une seconde, j'enlève l'achor. Si elle a l'argent, elle le rend à sa mère en lui disant que voilà, autrefois, j'avais pris de l'argent, j'étais pas bien impliqué dans le dîn ou bien j'en avais besoin, etc. Maintenant, voilà, je te rends ton argent et je te demande pardon. Et avant cela, elle fait aussi tauba entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'elle regrette. Hein? Deuxièmement, elle décide, elle arrête de faire cette chose. Alhamdoulilah, elle a arrêté. Troisièmement, elle décide de faire ça à l'avenir, c'est tout. Et même si elle n'a pas l'argent, elle demande pardon à sa mère. Pourquoi? Il est possible que sa mère lui dise, ma fille, là c'est terminé, maintenant c'est pas la peine de m'en donner. Alhamdoulilah, si elle se désiste, elle lui dit pas, rends-les-moi, là elle lui a pardonné. Donc c'est à elle de voir. Si elle a l'argent, elle lui donne, elle demande pardon. Si elle n'en a pas, elle lui raconte l'histoire, dit, je te les donnerai à Allah Ta'ala, dès que je les aurai. C'est pas la peine qu'elle se débrouille cet argent. Là. Et elle fait la tauba entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit. Elle regrette et elle décide de ne plus jamais faire cela, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Question d'ordre général. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah ta'ala vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. J'aimerais savoir si c'est autorisé d'être dans un appartement sous-loué afin de dépanner des nouveaux mariés en attendant qu'ils fassent la hijra. Hayakumullah wa jazakumullah khairan. Donc, cher, par rapport au sous-loué, je n'avais pas compris. Donc, j'ai demandé des précisions. Et donc, je vais prendre un exemple, Inch'Allah. Si je loue un appartement et que je pars à l'étranger 6 mois, pour une durée de 6 mois, par exemple, elle demande si j'ai droit. Donc, est-ce que moi, j'ai droit de louer l'appartement que moi-même je loue pendant mon absence? Est-ce que je peux le louer à quelqu'un pendant la durée où je serai à l'étranger, sachant que ce n'est pas ma propriété? Mais c'est un appartement que je loue moi-même. Tfadal cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Si elle demande si c'est permis, mais on lui dit en islam c'est permis. En islam, quand je te loue quelque chose, ça t'est loué. Naam. T'amnek l'intifa ou l'almanafa. Donc c'est permis. Mais, il faut voir dans vos lois. Est-ce que ça risque la prison? Est-ce que ça risque une amende? Est-ce que ça risque l'huissier de justice? Mais en islam, naam, c'est permis quand on te loue quelque chose de la louer. Naam, c'est permis en islam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Vous nous avez souvent parlé dans vos cours des attributs d'Allah, attributs de l'être ou attributs de l'essence. Ce sujet étant complexe, existe-t-il un livre en français complet qui nous explique cela? Ou bien pourriez-vous nous refaire un cours complet, barakallahu fikoum, pour vos cours qui nous sont très utiles?
Afouen, cher, j'ai repris le micro. En islam, lorsque l'on loue quelque chose, est-ce qu'on doit avoir l'aval du propriétaire? Est-ce que le propriétaire doit nous donner donc son autorisation pour qu'on le reloue derrière, cher? Car à la base, ça ne nous appartient pas. Donc, est-ce qu'il est autorisé de louer à quelqu'un quelque chose qu'on loue à la base et qui ne nous appartient pas. Tfadal, cher.
Walaykoum salam wa barakatou. J'étais en train de voir mon courrier. Je dis à la sœur Barakallah, je viens de recevoir le mail. Je viens de le recevoir. Je vais voir, Inch'Allah ta'ala. J'attends qu'il s'ouvre, Inch'Allah ta'ala. Et je vais le lire, Inch'Allah ta'ala. Une seconde. Naam. En islam, ce n'est pas obligé de demander. De demander quoi? De demander la permission du locataire. Pourquoi? Si lui, il ne sait pas, c'est de sa faute.
Il n'y a plus de son cher.
Muslim, dois-je comprendre que vous n'avez pas entendu la réponse? Dois-je comprendre que vous n'avez pas entendu la réponse? On n'a pas entendu. Maintenant, vous m'entendez, Inch'Allah? Maintenant, vous m'entendez? Alhamdoulilah, j'avais dit qu'en islam, c'est permis de sous-louer sans demander l'avis du locataire. Sauf si le locataire met une condition. Je te loue mon appartement à condition que tu ne le loues pas. S'il met une condition. Naam. Vous êtes à l'écoute, Inch'Allah. Taïb. Je vais vous lire, Inch'Allah ta'ala, quelque chose sur les yeux. Sur les yeux, bi'idhnillah ta'ala. Et si jamais le micro tombe de moi. Mousseline, tu prends le micro et tu me dis que tu n'as plus le micro. Écris-moi, d'accord? Voilà, car je suis pas maintenant, je vais sortir du salon, c'est-à-dire que je suis avec le fichier. Des preuves de Al-Sunna ou Jama'a, qu'il est de leur dogme d'attester qu'Allah Ta'ala a deux yeux véritables qui lui conviennent. Voici des preuves. 1. Le savant, Al-Alawi Saqqaf, a dit dans son livre les attributs dans le Coran et la Sunna, page 156, en parlant des yeux d'Allah. C'est un attribut de l'essence d'Allah Azzawajal, affirmé par les textes, se trouve dans le Coran et la Sunna. Et les gens de la Sunna et du consensus attestent qu'Allah voit avec l'œil, comme il atteste qu'Allah a deux yeux qui lui conviennent. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient le clairvoyant. Ensuite, il a cité trois versets de hadith, entre autres le hadith du Messie Dajjal, qu'on va citer plus bas. Deuxièmement, l'imam Ibn Khuzaymah rahimahullah a dit dans son livre Kitab Tawhid, volume 1, page 97, après avoir cité quelques versets qui parlent de l'attribut de l'œil, il a dit: il est du devoir de chaque musulman d'attester ce dont son créateur s'est décrit lui-même de l'attribut de l'œil et n'est pas croyant. Celui qui refoule d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il a affirmé dans son Coran, étayé par l'explication de son prophète, alayhi salam. Allah a dit, nous avons descendu sur toi le dhikr pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu. Et le prophète islam a montré qu'Allah avait deux yeux, ce qui concorde avec ce qu'il y a dans le Coran. C'est toujours ce qu'a dit l'imam Ibn Khuzaymah. Et il a dit aussi dans le même livre, page 114, et nous on dit que notre Seigneur et Créateur a deux yeux avec lesquels il voit ce qu'il y a sous la terre, la septième terre et les cieux élevés. L'éminent savant, troisièmement, l'éminent savant Al-Lalakai a dit dans son livre Les bases de la foi, volume 3, page 412, le contexte de ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna du prophète, que parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut du visage, des deux yeux et des deux mains. Quatrièmement, le savant Abdullah Al-Ghunayman a dit dans son livre Explication du livre Tawhid, Sahih al-Bukhari, volume 1, page 285, il a dit, sa parole du prophète, Allah n'est pas borgne, cette phrase c'est le témoin du hadith dans cette recherche. Qu'Allah a deux vrais yeux, car le fait d'être borgne, c'est de perdre un des yeux, ou de perdre sa lumière. L'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit dans son livre La profession de foi des gens de la Sunna et du consensus, page 21 et page 22, il a dit: nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède également deux yeux véritables, d'après sa parole, et construit l'arche sous nos yeux. Il y a un consensus des gens de la Sunna que ses yeux sont en nombre de deux. Consensus, ijma'a. Ijma'a, consensus. Que les yeux d'Allah sont en nombre de deux. En se basant sur le hadith concernant le Messie Dajjal, il est borgne. Et certes, votre Seigneur n'est pas borgne. Il a dit aussi, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre, Majmou' al-Fatawa, question numéro 63. Est-ce que Allah a deux yeux? Et quelle est la preuve? Réponse. Allah Ta'ala a deux yeux. C'est ce qui est connu de Al-Sunna ou Jama'a. Et aucun d'eux n'a dit le contraire de cela, ce que je sache. Ensuite, il a dit un peu plus bas. Et de cela, il s'éclaircit l'obligation d'attester qu'Allah a deux yeux. Car c'est prouvé par le texte. De même que cela est aussi le dogme rapporté de Al-Sunna ou Al-Hadith. Ensuite, il a cité tous les délits des salafs en refutant les délits des gens de la bid'a, voire en détail en arabe. Je l'ai ici en arabe. Cinquièmement, le savant Salah al-Sheikh, a dit dans son livre l'explication de la Aqidah Wasitiya, page 147, il a dit, et parmi les attributs qu'il faut attester, l'attribut des deux yeux à Allah Azzawajal. Ensuite, il a cité les preuves de cela, voire en bas en arabe dans le fichier. Septièmement, l'éminent savant Sheikh al-Albani Rahimahullah a dit dans la série Silsila Sahiha, Silsilatu Sahiha, cassette numéro 183, il a dit, quant au verset, Innaka bi ayunina, cela ne veut pas dire qu'Allah a plus de. Et puisqu'on parle de la sunna, comme vous le savez, la sunna explique le Coran et le complète. Et moi, j'atteste que cet avis, c'est-à-dire le fait de dire Allah Ta'ala a plus de deux yeux, est un avis innové, bid'a, qui n'est pas l'avis des salafs. Et ce qui est rapporté dans les livres du tawhid et du dogme, c'est qu'Allah a deux yeux. Et certains anciens savants se bat sur le hadith du Dajjal qui est borgne, et que votre Seigneur n'est pas borgne, et que l'un de vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. On n'a pas un texte clair qu'Allah a plus de deux yeux. Est-ce qu'on a hérité des salafs? Afoun. Et ce qu'on a hérité des salafs, c'est attester qu'Allah a deux yeux, comme dans l'apparent du hadith du Dajjal rapporté par plusieurs chaînes de transmission, car dans ce hadith où il est cité que le Messie Dajjal est borgne, et que votre Seigneur n'est pas borgne. Votre Seigneur n'est pas. Ce qui veut dire tout simplement qu'Allah Ta'ala est décrit qu'il a deux yeux et non pas trois ou plus. Car on n'a pas un texte qu'il en a plus. Et comme on dit toujours que les choses du domaine de l'invisible, et surtout ce qui a rapport avec le monde invisible d'Allah Ta'ala, on ne doit pas le décrire avec les analogies, qiyas, les généralités, autre chose. Mais plutôt, on les décrit avec ce qui nous est rapporté par les salafs salih et par les hadiths. Tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui a prétendu. Qu'il y a quelqu'un qui a prétendu qu'il y avait un hadith où il est dit qu'Allah avait plus de deux yeux. Et c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai vite cherché à voir ce hadith et on n'a rien trouvé. Voilà, inshallah ta'ala, pour les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour. Attendez, cette fois, je vais enregistrer le hadith, là, pour qu'il ne se perde plus. Une seconde. Je vais le mettre là, ici. Alhamdoulilah. Je te donne le micro. Je dis encore une fois, barakallahu fiha pour la sœur. Naam, tfadlal. Mais il y avait une question ici où il dit, est-ce que vous connaissez un livre où Allah subhanahu wa ta'ala où c'est parlé des attributs des actes? Il y a un livre complet en français. Je n'en connais pas. Les livres en français, je n'en connais pas bien. Si quelqu'un connaît de vous un livre où il y a ça en détail, qu'il le dise. Ensuite, il a dit, est-ce que c'est possible de nous refaire un cours? Naam, inshallah ta'ala, on refera des cours spécialement sur les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre-temps, je vous suggère d'écouter les cours qu'il y a sur le site, sur mon site, dans la Aqidah Tahawi, enfin, dans Aqidah Al-Wasitiya, là où j'arrive à les attributs, chapitre les attributs, j'ai beaucoup parlé de ça. Mais inshallah ta'ala, je vous promets que on reparlera de ça car c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, inshallah ta'ala, quand on termine le livre des les pieux prédécesseurs, un livre sur la Aqida. Tfadlal.
Question suivante, cher. Et juste parce que vous vous êtes trompé tout à l'heure dans la réponse que vous avez donnée sur le propriétaire, vous aviez dit le locataire doit préciser au locataire, au propriétaire. C'était l'inverse. Le propriétaire, lorsqu'il loue l'appartement, doit préciser au locataire s'il ne désire pas qu'il le reloue derrière. Donc c'était bien propriétaire et non locataire. Question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Salam.
Muslim, afouane pour le rouge. Naam, j'ai dit le locataire. Je voulais dire que le locataire, s'il veut, Ben, le propriétaire, s'il veut que l'autre ne sous-loue pas, alors c'est le propriétaire qui doit faire une condition. Il lui dit, je te loue mon appartement à condition que tu ne loues à personne. Je te loue mon restaurant à condition que tu ne loues à personne. Condition, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Tfadl.
Mes chers, qu'en est-il de la responsabilité? C'est-à-dire le premier locataire, lorsqu'il va prendre l'appartement, ou là une voiture, même une voiture, s'il loue une voiture, c'est lui qui va signer les papiers en disant que c'est moi qui est dans l'appartement. Imaginons que derrière, la voiture, elle brûle, ou là, l'appartement, il brûle. Sachant que là, ça va être le deuxième locataire qui sera donc en cause. C'est lui qui aura brûlé l'appartement ou là, la voiture. Qu'en est-il de la responsabilité pour l'intermédiaire? Donc le premier qui avait loué par rapport au propriétaire. Tfadal cher.
Non, je ne pense pas que ça s'applique avec les voitures. Car quand tu loues une voiture, enfin, je pars d'ici en Algérie, il faut pas la sous-louer. Car c'est seulement à toi qu'on fait les pas. On t'arrête dans un barrage ou là, il faudrait que tu aies la preuve que il y a ton nom sur le truc là, que tu c'est toi qui as loué la voiture. Si tu la loues à un autre, c'est interdit. Non. Et que, voilà, il faut sortir le fait de louer la voiture parce qu'il y a des lois maintenant, il te dit tu n'as pas le droit. Voilà. Sinon, j'ai dit en islam c'était permis. En islam c'était permis. Maintenant, on parlait des lois de nos journaux. Une sœur a donné le nom d'un livre, Les règles exemplaires des noms et attributs divins, édition Sabil. C'est de qui ce livre, Inch'Allah Ta'ala? C'est de qui? Tfadl, lis la question musulmane. Ce sera la dernière. Il est une heure, il reste 1 minute.
Non, cher, je vous la lis, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur d'ordre général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, vous et vos admins. Amin. J'ai besoin de votre aide, bi'innillah. Depuis que mes parents ont divorcé, cela fait 7 ans, ma mère a sombré dans l'alcool. Au début, c'était de temps en temps, mais aujourd'hui, ça s'est aggravé. Ma mère n'est plus responsable, elle ne fait plus rien, c'est moi qui gère tout, c'est-à-dire, je m'occupe de mes sœurs, je paye le loyer, etc. Je ne travaille pas, donc je paye tout avec les sous que ma mère perçoit. Et c'est peu, car elle prend tout pour s'acheter de l'alcool. Aujourd'hui, je ne supporte plus cette situation, car elle est vraiment ivre et me freine dans ma pratique de mon dîn. Lorsque je prie, ou quand elle voit que j'étudie ma religion, elle m'embête, m'insulte, et à un moment, ça va trop loin, donc je lui réponds mal. Il y a un an, ma mère est tombée malade. Et suite à ça, ma tante a dit aux services sociaux que ma mère buvait et ne s'occupait plus de nous. Les services sociaux sont venus nous voir, mais je ne leur ai rien dit, car je sais que mes petites sœurs devront aller au foyer. Non, chez les mécréants, et je ne veux pas. Donc les services sociaux ne se sont pas inquiétés. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que ça a empiré avec ma mère. Donc je vous demande, que dois-je faire? Je ne peux plus continuer comme ça. Khair inshallah, wa jazakumullahu khairan. Et je pense que le cher va demander l'âge qu'a la sœur, Allahu alam. Et est-ce que c'est des parents koufars ou bien musulmans? Allahu alam. Tfadal cher.
Pour dire la vérité, c'est vraiment choquant, c'est décevant, c'est. Pour dire que. Comment vivre son. Non. Non. Donc maintenant, quelle est la solution? Vous voyez ici, donc vous comprenez que. Ce n'est pas religieux. Ici, c'est social. C'est comment trouver une solution sociale. Ici, la religion n'a rien à voir avec la question posée. Ni haram, ni halal, c'est. On a affaire à une personne malade. Car celle-là, elle est alcoolique, donc c'est une malade. Maintenant, je dis, si c'est possible, yani, de patienter. Patienter. La mère reste toujours la mère. Même si elle est mouchrika. Si on patiente avec elle, même si elle est ivre, même si elle est yani mushrika, et on a des récompenses par Allah l'Azim. Mais c'est ça le problème. Est-ce que son comportement ne va? Ou alors me mettre des embûches dans mon dîn? Ou alors, comme c'est le cas, c'est ce qu'elle dit. Nam. Quand c'est quelqu'un qui est ivre et qui ne sait pas ce qu'il dit et commence à insulter, commence à rire, à rigoler, à dire n'importe quoi, à dire des gros mots, dire. Vous connaissez le livre? C'est ce qu'on pourquoi c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'alcool. Pourquoi Allah Ta'ala interdit l'alcool? Nam. Donc franchement, yani, n'étant pas là-bas avec vous et ne sachant pas quels sont yani, les alternatives. Je ne sais pas pourquoi je vous dis c'est social. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce qu'on peut faire par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire chez vous? Est-ce qu'on peut. Je pense sûr qu'elle veut savoir comment faire avec ses petites sœurs. Non, s'il y a des petites sœurs, s'il y a comment trouver une solution, on voudrait bien. S'il y a où elle peut aller avec ses petites sœurs, pour qu'elle reste tranquille. Car l'autre, maintenant, ça, il n'y a pas de solution. Y a pas et alcoolique, là, il n'y a presque plus de solution. Mais, comment trouver une solution pour. Car la maison, sûrement qu'elle appartient à la mère. Donc, on ne va pas faire sortir la mère de la maison de sa maison. Mais, comment trouver la solution? Prendre les sœurs, les petites sœurs et aller où? C'est ça le problème. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tfadl, peut-être tu as une solution, musulman.
Là, cher, j'ai pas de solution, mis à part sur le fait de. Quand j'ai dit il faut savoir son âge. Parce que là, elle précise pas son âge. Peut-être qu'elle a 13 ans, ou la 14 ans, cette sœur, ou la 15 ans. C'est-à-dire, donc, elle est mineure. Et auprès de la loi, forcément, donc, si ça se sait, ses petites sœurs vont être prises par les services sociaux, etc. Donc, si elle est majeure, après, je ne sais pas si elle peut demander la garde de ses petites sœurs. Si elle arrive à avoir, par exemple, je sais pas moi, un travail avec une situation, des fiches de paie, etc., qui disent qu'elle peut être indépendante, c'est-à-dire vivre seule, et après prendre sous sa garde ses petites sœurs, pour Inch'Allah. Donc, justement, cher, après avoir une occasion, c'est pour ça que je vous dis, faudra savoir si elle est majeure, si elle peut se débrouiller, et après, je sais pas là où. Quand on m'envoie un whisper en me disant que là où elle habite, cette sœur, il y a des sœurs qui la soutiennent. Donc après, Allah alim, peut-être qu'elle connaît une sœur qui habite seule, qui pourrait être hébergée temporairement, etc. Et comme vous dites, c'est social. Mais il faudrait savoir. Ah, c'est ce que je viens de dire, cher. Peut-être par le biais d'une sœur qui pourrait l'héberger, etc. Mais je pense qu'il faut surtout savoir son âge et savoir comment ça se passerait avec ses petites sœurs, si ça se sait. La sœur a 18 ans. Donc si elle est majeure, peut-être Allah alim, avec une assistante sociale, ou là je ne sais pas, si elle pourrait avoir la garde de ses petites sœurs. Pour éviter justement qu'elle soit mise dans des foyers de famille de kofar, etc. Allah alim. Qu'Allah lui facilite.
Non, qu'elle remette son affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout, qui sait, qui gère tout. Qu'elle demande qu'il lui gère son affaire et qu'il lui fasse une issue. Fa inna ba'da al-'usri yusran, inna ba'da al-'usri yusra. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'après la difficulté, il y avait la facilité. Taïb, qu'elle dise, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, qu'on la mette, inshallah ta'ala, en contact avec certaines sœurs d'âme qui habitent près d'elle et qu'elle voit, inshallah ta'ala, avec elle, comment s'entraider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire une solution à tous nos frères et yani, leur faire une issue favorable, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pour aujourd'hui. Jazakallah, tu vois, là, je te donne le micro.
Afouane Cheikh, la prochaine fois, il ne faut pas mettre une demi-heure, il faut mettre 20 minutes, il reste 20 minutes, comme ça on va tomber juste, Inch'Allah. Parce qu'à chaque fois, quand vous dites c'est fini, on rajoute toujours 10 minutes, 20 minutes. Donc en fait, c'est une sœur la dernière fois qui vous avait posé une question. Elle loue un appartement ou un local à un avocat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, cher. Et donc, je cherche juste où sont ses propos. Non, j'avais préparé et j'ai perdu sa parole. Subhanallah. En tout cas, Cheikh, ouais, voilà. En fait, ils ont dit à l'avocat donc ils pouvaient plus lui louer. Par contre, jusqu'au terme du contrat, ils continuent à verser de l'argent. Donc, ils veulent savoir que faire de cet argent, si cet argent est licite ou pas, Cheikh. L'argent qu'ils ont reçu et qu'ils vont recevoir jusqu'à la fin du contrat, jusqu'à ce qu'ils sortent, en fait. Barakallahu fikoum, Cheikh. Et la deuxième chose, c'est est-il permis de traduire Ayat al-Kursi par le verset du trône? Barakallahu fikoum, Cheikh. Parce que beaucoup disent ça, est-ce que c'est correct ou pas?
C'est quoi la première question? Non, pour l'avocat, etc. J'ai cité tout à l'heure une règle que, à partir du moment où j'apprends que tel est haram, c'est de ce moment que les péchés commencent à se compter, si je puis dire, si je n'arrête pas et si je peux arrêter. Vous comprenez? Donc, pour le passé, l'argent que la personne a reçu pour le passé, c'est pas la personne. Et maintenant, à partir du moment où elle reçoit, on va voir. Parce que maintenant, elle sait que c'est haram. On va voir. Est-ce qu'elle peut arrêter ou ne pas arrêter? S'il y a un contre-exemple d'une année, l'autre, il va dire, moi, il y a une année, je reste toujours sur mon contrat. Personne ne m'oblige à me désister. Vous comprenez? Dans ce cas, cet argent, inchallah ta'ala, est halal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai voulu l'arrêter. Ma faute, c'est lui qui s'arrête pas. C'est lui qui s'arrête pas. Et moi, quand j'ai fait le contrat, je l'ai fait dans une situation d'ignorance. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner. Mais elle va lui renouveler le contrat. C'est à partir de ce moment. Quant au verset du trône, ayatou. C'est faux. Si quelqu'un dit le verset du trône, il a fait une erreur il a menti aussi. Il a menti dans le verset du repose-pied. Nam, repose-pied. Ou bien certains, Allah Alam, disent pied, pas ce mot-ci, s'il est vrai aussi. Mais le mot-même, c'est là où on met les pieds. Ça s'appelle repose-pied. Et ce n'est pas le trône et ça n'a rien. Et le hadith est fait à l'islam où il a comparé entre quoi? Entre le trône et le coursier. Coursier. Vous connaissez tous le hadith authentique. Si vous ne connaissez pas, rappelez-moi le prochain cours, je vous le donne maintenant, Inch'Allah, je suis fatigué. Donc, il y a un hadith authentique qui dit que le trône, c'est une chose. Et que le coursier, le repose-pied, c'est autre chose. Donc celui qui va dire que être coursier, c'est le verset du trône, soit c'est un djihad, soit c'est un menteur. Et s'il ment dans la aqida, c'est grave. Il doit dire le verset du repose-pied. Seulement, yani, il fait tahqiq, yani, il fait des recherches pour être sûr si ça s'appelle repose-pied en français. Mais en arabe, on dit coursier. On dit mawdi' al-qadamayn. Non, mais il faut chercher en français comment on dit exactement si c'est repose-pied ou le reposoir. J'ai oublié maintenant, mais surtout repose-pied. Est-ce que vous me confirmez? Est-ce que vous me confirmez? Repose-pied, n'est-ce pas? Qu'est-ce que repose-pied? Voilà. Voilà. Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer. Bi'idhnillah ta'ala, aujourd'hui c'est quoi? C'est samedi ou là c'est mercredi? Aujourd'hui c'est samedi, on va se rencontrer mercredi vers 20h15. Bi'idhnillah ta'ala, 20h15, c'est-à-dire 21h15. Là, là, c'est-à-dire 20h15, voilà, 20h45, musulman, 20h45 en France ou là en Algérie, voilà, 19h45, 20h45 chez vous, voilà. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.